Chapitre 2, novembre 1815. Mercredi 1er au samedi 4 novembre, emploi des journées, Conseil d'État, scène grave, dissolution du corps législatif en 1813, Sénat. Nos journées avaient déjà toute l'uniformité de celles que nous passions à bord du vaisseau. L'empereur me faisait appeler pour déjeuner avec lui, c'était de 10 à 11 heures. Le déjeuner fini, après une demi-heure de conversation, je lui lisais ce qu'il avait dicté la veille et il me dictait de nouveau pour le lendemain. L'empereur ne s'habillait plus dès le matin, il ne sortait plus avant les déjeuners, cela lui avait rendu la journée trop décousue et trop longue. Il ne s'habillait plus à présent que sur les 4 heures. Il sortait alors pour qu'on pût faire son lit et nettoyer sa chambre. Nous allions nous promener dans le jardin, il affectionnait cette solitude. Je fis couvrir d'une toile l'espèce de berceau qui s'y trouve. On y rapporta une table, des chaises, et dès ce moment-là, ce fut là que l'empereur dictait à celui de ces messieurs qui arrivaient de la ville pour le travail. En face de la maison du propriétaire, au-dessous de nous, se trouvait une allée bordée de quelques arbres, et c'était là que les deux soldats anglais avaient pris poste pour nous surveiller, mais ils en furent retirés avec le temps à la demande de notre hôte qui s'en trouvait choqué pour son propre compte. Néanmoins, ils avaient continué à rôder à vue de l'empereur, attirés par la curiosité ou conduits par la nature de leurs ordres. Ils finirent par disparaître tout à fait, et l'empereur prit insensiblement possession de cette allée inférieure. Ce fut pour lui une véritable augmentation de domaine. Il s'y rendait chaque jour après son travail, en sortant du jardin pour y attendre l'heure de son dîner. Les deux petites demoiselles et leur mère venaient l'y joindre et lui raconter les nouvelles. Il y retournait aussi parfois après son dîner quand le temps le permettait. Il passait alors la soirée sans qu'il eût besoin d'entrer chez les voisins, ce qu'il ne faisait qu'à la dernière extrémité et quand il savait surtout qu'il n'y avait pas d'étrangers, ce que j'allais préalablement vérifier à travers les croisées. Dans une de ses promenades, l'empereur s'étendit beaucoup sur le Sénat, le corps législatif et le Conseil d'État surtout. Il avait, disait-il, tiré vraiment un grand parti de celui-ci dans tout le cours de son administration. Je vais tracer ici quelques détails sur ce Conseil d'État, d'autant plus volontiers qu'on en avait fort peu d'idées dans les salons. Et comme il ne subsiste plus aujourd'hui sur le même pied, j'intercalerai ici, chemin faisant, quelques lignes sur son mécanisme et ses attributions. Le Conseil d'État était généralement composé, disait l'empereur, des gens instruits, bons travailleurs et de bonne réputation. Fermont et Boulay, par exemple, sont certainement de braves et honnêtes gens. Malgré les immenses affaires litigieuses qu'ils ont gérées et les gros émoluments dont ils jouissaient, on ne me surprendrait pas du tout si l'on m'apprenait aujourd'hui qu'ils sont tout au plus au-dessus de l'aisance. L'empereur employait individuellement les conseillers d'État à tout, disait-il, et avec avantage. En masse, c'était son véritable conseil, sa pensée en délibération, comme les ministres étaient sa pensée en exécution. Au Conseil d'État se préparaient les lois que l'empereur présentait au corps législatif, ce qui le rendait tout à fait un des éléments de la puissance législative. Là se rédigeaient les décrets de l'empereur, ses règlements d'administration publique, là s'examinaient, se discutaient et se corrigeaient les projets de ses ministres, etc. Le Conseil d'État recevait l'appel et prononçait en dernier ressort sur tous les jugements administratifs, accidentellement sur tous les autres tribunaux, même sur la Cour de cassation. Là s'examinaient aussi les plaintes contre les ministres, les appels même de l'empereur à l'empereur mieux informé. Ainsi, le Conseil d'État, constamment présidé par l'empereur et souvent en opposition directe avec les ministres ou en réformation de leurs actes ou de leurs écarts, se trouvait donc naturellement le refuge des intérêts ou des personnes lésées par quelque autorité que ce fût. Et quiconque y a assisté sait avec quelle chaleur la cause des citoyens s'y trouvait défendue. Une commission de ce conseil recevait toutes les pétitions de l'Empire et mettait sous les yeux du souverain celles qui méritaient son attention. Il est étonnant combien, à l'exception des gens de loi et des employés de l'administration, le reste, parmi nous et surtout ce qu'on appelle la société, était dans l'ignorance de notre propre législation politique. On n'avait point du tout d'idée juste du Conseil d'État, du corps législatif, du Sénat. C'était un adage reçu, par exemple, que le corps législatif, réunion de muets, adoptait passivement, sans opposition, toutes les lois qu'on lui présentait. On attribuait à la complaisance et à la servilité ce qui ne tenait qu'à la nature et à la bonté de l'institution. Les lois préparées dans le Conseil d'État étaient présentées par des commissaires tirés de son sein à une commission du corps législatif chargée de les recevoir. Ils les discutaient ensemble, à l'amiable, ce qui les faisait souvent reporter sans bruit au Conseil d'État pour y être modifiés. Quand les deux députations ne pouvaient pas s'entendre, elles allaient tenir des conférences régulières sous la présidence de l'archi-chancelier ou de l'archi-trésorier, de sorte que, quand ces lois arrivaient au corps législatif, elles avaient déjà l'assentiment des deux parties opposées. S'il existait encore quelques différences, elles étaient discutées contradictoirement par les deux commissions en présence de la totalité du corps législatif faisant les fonctions de jury, lequel, quand il se trouvait suffisamment éclairé, prononçait au scrutin secret, ayant ainsi la facilité d'émettre en toute liberté son opinion, puisque personne ne pouvait voir si l'on mettait une boule noire ou une boule blanche. Aucun mode, assurément, disait l'empereur, ne pouvait être plus convenable contre notre effervescence nationale et notre jeunesse en matière de liberté politique. L'empereur me demandait si la discussion était bien libre au Conseil d'État, si sa présence n'en gênait pas les délibérations. Je lui citai une séance fort longue où il était demeuré constamment seul de son avis et avait en conséquence succombé. Je fus assez heureux pour lui en rappeler, tant bien que mal, le sujet. Il y fut aussitôt. « Oui, dit-il, ce doit être une femme d'Amsterdam, sous la peine de mort, trois fois acquittée par les cours impériales et dont la Cour de cassation réclamait encore la mise en jugement. » L'empereur voulait que cet heureux concours de la loi eût épuisé sa sévérité à l'égard de l'accusé, que cette heureuse fatalité de circonstances tournât à son profit. On lui répondait qu'il possédait la bienfaisante ressource de faire grâce, mais que la loi était inflexible et qu'il fallait qu'elle eût son cours. La discussion fut fort longue. Monsieur Murer parla beaucoup et très bien, il entraîna tout le monde. L'empereur, qui était constamment demeuré seul, se rendit en prononçant ces paroles remarquables. « Messieurs, on prononce ici par la majorité, je demeure seul, je dois céder, mais je déclare que dans ma conscience, je ne cède qu'aux formes. Vous m'avez réduit au silence, mais nullement convaincu. » Dans le monde, où l'on ne se doutait même pas de ce qu'était le Conseil d'État, on était persuadé que personne n'osait y prononcer une parole en sens différent de l'empereur. Et je surprenais fort dans nos salons lorsque je racontais qu'un jour, après une discussion assez animée, interrompue trois fois dans son opinion, l'empereur, s'adressant à celui qui venait de lui couper assez impoliment la parole, lui dit avec vivacité « Monsieur, je n'ai point encore fini, je vous prie de me laisser continuer. Après tout, il me semble qu'ici, chacun a bien le droit de dire son opinion. » Sortie qui, malgré le lieu et le respect, fit rire le monde et l'empereur lui-même. Toutefois, lui disais-je, on pouvait s'apercevoir que les orateurs cherchaient à deviner quelle serait l'opinion de votre majesté. On se voyait heureux d'avoir rencontré juste, embarrassé de se trouver dans un sens opposé. On vous accusait de nous tendre des pièges pour mieux connaître notre pensée. Néanmoins, la question une fois lancée, l'amour-propre et la chaleur faisaient qu'on soutenait généralement sa véritable opinion, d'autant plus que l'empereur excitait la plus grande liberté. « Je ne me fâche point qu'on me contredise, disait-il, je cherche qu'on m'éclaire. Parlez hardiment, répétait-il souvent, quand on se rendait obscur ou que l'objet était délicat. Dites toute votre pensée, nous sommes ici entre nous, nous sommes en famille. » On m'a raconté que, sous le consulat ou au commencement de l'Empire, l'empereur eut à combattre, dans un de ses membres, une différence d'opinion qui devint, par la chaleur et l'obstination de celui-ci, une véritable affaire personnelle et des plus vives. Napoléon se contint et se réduisit au silence. Mais, à quelques jours de là, à une de ses audiences publiques, arrivé à son antagoniste, « Vous êtes bien entêté, lui dit-il à demi-sérieusement, et si je l'étais autant que vous, toutefois, vous avez tort de mettre la puissance à l'épreuve. Vous ne devriez pas méconnaître les infirmités humaines. » Une autre fois, il disait en particulier à un autre membre qu'il avait également poussé à bout « Ayez donc l'attention de ménager un peu mon humeur. Dernièrement, vous avez été bien loin. Vous m'avez réduit à me gratter la tempe. C'est un grand signe chez moi. Dorénavant, évitez de me pousser jusque-là. » Rien n'égalait l'intérêt que la présence et les paroles de l'empereur répandaient sur les séances du Conseil d'État. Il le présidait régulièrement, deux fois par semaine, tant qu'il se trouvait dans la capitale, et alors aucun de nous n'y eut manqué pour tout au monde. Deux séances, disais-je à l'empereur, m'avaient surtout laissé les plus vives impressions. L'une de police intérieure, toute de sentiments, lorsqu'il en avait expulsé un membre. L'autre de décision constitutionnelle, lorsqu'il avait dissous le corps législatif. Un parti religieux soufflait les discordes civiles, on colportait en secret et on faisait circuler des bulles et des lettres du pape. Elles furent montrées à un conseiller d'État chargé du culte, qui, s'il ne les propagea pas lui-même, du moins n'en arrêta ni n'en dénonça la circulation. Cela se découvrit, et l'empereur l'interpella subitement en plein conseil. « Quel a pu être votre motif ? Lui dit-il. « Monsieur, seraient-ce vos principes religieux ? Mais alors, pourquoi vous trouvez-vous ici ? Je ne violente la conscience de personne. Vous ai-je pris au collet pour vous faire mon conseiller d'État ? C'est une faveur insigne que vous avez sollicitée. Vous êtes ici le plus jeune et le seul peut-être qui soyez sans des titres personnels. » Je n'ai vu en vous que l'héritier des services de votre père. Vous m'avez fait un serment personnel. Comment vos sentiments religieux peuvent-ils s'arranger avec la violation manifeste que vous venez d'en faire? Toutefois, à parler, vous êtes ici en famille, vos camarades vous jugeront. Votre faute est grande, monsieur. Une conspiration matérielle est arrêtée dès qu'on saisit le bras qui tient le poignard. Mais une conspiration morale n'a point de terme, c'est une traînée de poudre. Peut-être qu'à l'heure qu'il est, des villes entières s'égorgent par votre faute. » L'accusé, confus, ne répondait rien. Dès la première interpellation, il était convenu du fait. La presque totalité du conseil, pour laquelle cet événement était inattendu, gardait, par son étonnement, le silence le plus profond. « Pourquoi, continuait l'empereur, dans l'obligation de votre serment, n'êtes-vous pas venu me découvrir le coupable et sa machination ? Ne suis-je pas abordable à chaque instant pour chacun de vous ?» Sire, se hasarda de répondre l'interpellé, « c'était mon cousin. » « Votre faute n'en est que plus grande, monsieur, » répliqua alors vivement l'empereur. « Votre parent n'a pu être placé qu'à votre sollicitation. Dès lors, vous avez pris toute la responsabilité. Quand je regarde que quelqu'un est tout à fait à moi, comme vous l'êtes ici, ceux qui leur appartiennent, ceux dont ils répondent, sont dès cet instant hors de toute police. Voilà quelles sont mes maximes. » Et comme le coupable continuait à ne rien dire, « Les devoirs d'un conseiller d'État envers moi sont immenses, » conclut l'empereur. « Vous les avez violés, monsieur. Vous ne l'êtes plus. Sortez, ne reparaissez plus ici. » En sortant, comme il passait auprès de la personne de l'empereur, l'empereur lui dit, en jetant les yeux sur lui, « J'en suis navré, monsieur, car j'ai présent la mémoire et les services de votre père. » Et quand il fut sorti, l'empereur ajouta, « J'espère qu'une pareille scène ne se renouvellera jamais. Elle m'a fait trop de mal. » Je ne suis pas défiant, je pourrais le devenir. Je me suis entouré de tous les partis, j'ai mis auprès de ma personne jusqu'à des immigrés, des soldats de l'armée de Condé. Bien qu'on voulût qu'ils m'eussent assassiné, je dois être juste, tous m'ont été fidèles. Depuis que je suis au gouvernement, voilà le premier individu auprès de moi qui m'est trahi. » Et se tournant vers M. Locré, qui rédigeait les séances du Conseil d'État, « Vous écrirez « trahi », entendez-vous ? Quel recueil que ces procès-verbaux de M. Locré ! Que sont-ils devenus ? On y trouverait mot pour mot tout ce que je raconte. Quant à la dissolution du corps législatif, le Conseil d'État fut convoqué le dernier ou l'avant-dernier jour de décembre 1813. Nous savions que la séance devait être importante, sans pour autant en connaître l'objet. La crise était des plus graves. L'ennemi entrait sur le territoire français. « Messieurs, dit l'empereur, vous connaissez la situation des choses et les dangers de la patrie. J'ai cru, sans y être obligé, devoir en donner une communication intime aux députés du corps législatif. J'ai voulu les associer aussi à leurs intérêts les plus chers, mais ils ont fait de cet acte de ma confiance une arme contre moi, c'est-à-dire contre la patrie. Au lieu de me seconder de leurs efforts, ils gênent les miens. notre attitude seule pourrait arrêter l'ennemi, leur conduite l'appelle. Au lieu de lui montrer un front d'airain, il lui découvre nos blessures. Il me demande la paix à grands cris, lorsque le seul moyen pour l'obtenir était de me recommander la guerre. Ils se plaignent de moi, ils parlent de leurs griefs, mais quel temps, quel lieu prennent-ils? N'était-ce pas en famille et non en présence de l'ennemi qu'ils devaient traiter de pareils objets? Étais-je donc inabordable pour eux? Me suis-je jamais montré incapable de discuter la raison? Toutefois, il faut prendre un parti. Le corps législatif, au lieu d'aider à sauver la France, concourt à précipiter sa ruine. Il trahit ses devoirs. Je remplis les miens, je le dissous. Alors il nous fit faire lecture d'un décret qui y portait que les 2/5 du corps législatif avaient déjà épuisé leur pouvoir, qu'au 1er janvier un autre 1/5 allait se trouver dans le même cas, qu'alors la majorité du corps législatif serait réellement composée de gens n'ayant plus de droits, que, vu ces circonstances, le corps législatif était dès cet instant prorogé et ajourné jusqu'à ce que de nouvelles élections l'eussent complété. Après la lecture, l'empereur reprit « Tel est le décret que je rends, et si l'on m'assurait qu'il doit dans la journée porter le peuple de Paris à venir en masse me massacrer ici aux Tuileries, je le rendrais encore, car tel est mon devoir. Quand le peuple français me confia ses destinées, je considérais les lois qu'il me donnait pour le régir. Si je les eusse crues insuffisantes, je n'aurais pas accepté. Qu'on ne pense pas que je suis un Louis XVI. Qu'on n'attende pas de moi des oscillations journalières. Pour être devenu empereur, je n'ai pas cessé d'être citoyen. Si l'anarchie devait être consacrée de nouveau, j'abdiquerais pour aller dans la foule jouir de ma part de souveraineté plutôt que de rester à la tête d'un ordre de choses où je ne pourrais que compromettre chacun sans pouvoir protéger personne. Du reste, conclut-il, ma détermination est conforme à la loi. Et si tous veulent aujourd'hui faire leur devoir, je dois être invincible derrière elle, comme devant l'ennemi. On ne fuit pas son devoir. » L'empereur, contre l'opinion commune, était si peu absolu et tellement facile avec son conseil d'État qu'il lui est arrivé plus d'une fois de remettre en discussion ou même d'annuler une décision prise parce qu'un de ses membres lui avait donné depuis en particulier des raisons nouvelles ou s'était appuyé sur ce que son opinion personnelle à lui, empereur, avait influé sur la majorité, qu'on demande au chef de section surtout. De même que l'empereur avait coutume de livrer à des membres de l'Institut toute idée scientifique qui lui venait en tête, de même il livrait toutes ses idées politiques à des conseillers d'État. Souvent même ce n'était pas sans des vues particulières et quelquefois secrètes. C'était un moyen sûr, disait-il, de faire creuser une question, de connaître la force d'un homme, ses penchants politiques, d'essayer sa discrétion, etc. J'ai la certitude qu'en l'an 12, il a été confié à 3 conseillers d'État l'examen d'une question bien extraordinaire, celle de la suppression du corps législatif. La majorité fut pour l'approbation, un seul s'éleva contre avec force et parla longtemps et fort bien. L'empereur, qui avait présidé avec beaucoup d'attention et de gravité, ne laissa échapper aucune parole ni indice d'opinion, termina la séance en disant « Une question aussi grave mérite bien qu'on y pense, nous y reviendrons. » Mais elle n'a jamais reparu. Il eût été heureux qu'on eût agi de même lors de la suppression du tribunat, car elle a été dans le temps et est demeurée un grand sujet de déclamation et de reproche. Pour l'empereur, il n'y vit que la suppression d'un abus coûteux, une économie importante. Il est certain, prononçait-il, que le tribunat était absolument inutile et coûtait près d'un 500 000. Je le supprimais. Oh, je savais bien qu'on crierait à la violation de la loi, mais j'étais fort, j'avais la confiance entière du peuple, je me considérais comme réformateur. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je le fis pour le bien. J'eusse dû le créer au contraire si j'eusse été hypocrite ou mal intentionné, car qui doute qu'il n'eût été adopté, sanctionné au besoin, mes vues et mes intentions, mais c'est ce que je n'ai jamais recherché dans tout le cours de mon administration. Jamais on ne m'a vu acheter aucune voix ni aucun parti par des promesses de l'argent ou des places. Non, jamais. Et si j'en ai donné à des ministres, à des conseillers d'État, à des législateurs, c'est que ces choses étaient à donner et qu'il était tout naturel et même juste qu'elles fussent distribuées à ceux qui travaillaient près de moi. De mon temps, tous les corps constitués ont été purs, irréprochables, je le prononce, ils agissaient par conviction. La malveillance et la sottise pouvaient dire le contraire, elles avaient tort. Et si on les a condamnés, c'est parce qu'on n'a pas su ou qu'on n'a pas pu vouloir savoir. Et puis aussi à cause du mécontentement et de l'opposition du temps, et par-dessus tout encore à cause de cet esprit d'envie, de détraction et de moquerie qui nous est si particulièrement naturel. On a beaucoup accusé le Sénat, on a beaucoup crié au servilisme, à la bassesse, mais les déclamations ne sont pas des preuves. Qu'eût-on donc voulu du Sénat, qu'il eût refusé des conscrits, que les commissions de la liberté individuelle et de la presse eussent fait esclandre contre le gouvernement, qu'il eût fait ce que plus tard, en 1813, a fait une commission du corps législatif? Mais voyez où celle-ci nous a menés. Je doute qu'aujourd'hui, les Français lui portent une grande reconnaissance. Le vrai est que toutes nos circonstances étaient forcées. Les gens sages le sentaient et savaient s'y plier. Ce qu'on ignore, c'est que, dans presque toutes les grandes mesures, les sénateurs venaient, avant de voter, me produire à l'écart et quelquefois très chaudement leurs objections ou même leurs refus, et qu'ils s'en retournaient convaincus ou par mes raisonnements ou par la force et l'imminence des choses. Si je ne faisais pas bruit de tout cela, c'est que je gouvernais en conscience et que je dédaignais la charlatanerie ou tout ce qui pouvait être pris pour elle. Les votes du Sénat étaient à peu près constamment unanimes, parce que la conviction y était universelle. On a essayé de rehausser beaucoup, dans le temps, une imperceptible minorité que les louanges hypocrites de la malveillance, leur pure vanité ou tout autre travers de caractère, poussaient à une opposition sans danger. Mais ceux qui la composaient ont-ils tous montré, dans nos dernières crises, une tête saine ou un cœur bien droit? Je le répète, la carrière du Sénat a été irréprochable. L'instant seul de sa chute a été honteux et coupable. Sans titre, sans pouvoir, et en violation de tous les principes, il a livré la patrie et consommé sa ruine. Il a été le jouet de hauts intrigants qui avaient besoin de discréditer, d'avilir, de perdre une des grandes bases du système moderne. Et il est vrai de dire qu'ils ont complètement réussi, car je ne sache pas de corps qui doivent s'inscrire dans l'histoire avec plus d'ignominie que le Sénat. Et toutefois, il est juste encore d'observer que cette tâche n'est pas celle de la majorité et que, parmi les délinquants, se sont trouvés une foule d'étrangers, au moins indifférents désormais à notre honneur et à nos intérêts. Le Conseil d'État, lors de l'arrivée de M. le comte d'Artois, s'agita comme il put pour s'attirer son attention et capter sa bienveillance. Il lui fut présenté deux fois et sollicita d'envoyer une députation à Compiègne au devant du roi. Le lieutenant-général du royaume répondit à cette dernière demande que le roi en recevrait volontiers les membres individuellement, mais qu'on ne devait pas songer à lui envoyer une députation. Il est vrai de dire que les gros bonnets, c'est-à-dire les chefs de section, étaient absents. Tout ce mouvement, d'ailleurs, n'avait d'autre but que de tâcher de ne pas perdre le traitement, peut-être même d'être conservé. Aussi, le Conseil d'État fit tout aussitôt son adhésion aux résolutions du Sénat, évitant à la vérité toute expression qui eût pu être injurieuse pour l'empereur. « Et vous l'avez signé ?» me dit l'empereur. « Non, sire, je refusais ma signature à cette adhésion, soutenant que c'était une insigne folie que de prétendre demeurer successivement le conseiller et l'homme de confiance de deux antagonistes, et que d'ailleurs, si le vainqueur s'y entendait bien, le meilleur gage à présenter à son attention devait être la fidélité et le respect envers le vaincu. « Et vous raisonniez juste, » observa Napoléon. Dimanche 5, paroles vives, circonstances caractéristiques. Nous nous trouvions à peu près tous réunis auprès de l'empereur dans le jardin. Ceux de la ville se plaignaient fort de la manière dont ils y étaient, ainsi que des vexations toujours renouvelées dont ils étaient l'objet. L'empereur, qui depuis près de 15 jours avait vainement établi le système de ne rien traiter sur cet article que par écrit, comme la manière la plus digne, la plus convenable et la plus propre à amener des résultats, qui avait même arrêté une note à ce sujet, laquelle avait dû être remise depuis longtemps et ne l'avait jamais été, y revint plusieurs fois sous formes différentes et quelques-unes assez piquantes. Tous les raisonnements et toutes les observations indirectes s'appliquaient au grand maréchal. Celui-ci finit par s'en fâcher, car quel bon naturel n'aigrisse pas les infortunes. Il s'exprima très vivement. Sa femme, très près de la porte, désespérant de neutraliser l'orage, s'esquiva. Je pus alors observer combien toutes les impressions que pouvait créer cette circonstance se succédaient avec rapidité chez l'empereur. La raison, la logique, on pourrait même dire le sentiment, dominèrent toujours. Que vous n'ayez point remis cette lettre, si vous la croyez nuisible, disait-il, c'est un devoir de l'amitié que vous me portez. Mais cela demandait-il un retard de plus de 24 heures. Voilà 15 jours que vous ne m'en parlez pas. Si ce plan était jugé mauvais, si la rédaction en avait été défectueuse, pourquoi ne pas me le dire? Je vous aurais réunis tous pour la discuter avec moi. Nous demeurions tous arrêtés près du berceau, à l'extrémité de l'allée que l'empereur parcourait seul devant nous, allant et venant. Dans un moment où l'empereur était le plus éloigné, le grand maréchal me dit « Je crains de m'être exprimé inconvenablement, j'en suis bien fâché. » « Nous allons vous laisser avec l'empereur, lui dis-je. Vous le lui aurez bientôt fait oublier dès que vous serez seul. » Et j'entraînai hors du jardin tout ce qui était là. Effectivement, le soir, l'empereur, causant avec moi de sa matinée, disait « C'était après nous être raccommodés avec le grand maréchal. C'était avant l'algarade avec le grand maréchal. » Et autre chose pareille qui prouvait tout à fait que cette circonstance n'avait rien laissé sur son cœur. Lundi 6, sur les généraux de l'armée d'Italie, armée des anciens, Gengis Khan, etc., invasion moderne, caractère des conquérants. L'empereur a été souffrant et a travaillé beaucoup dans sa chambre. Il m'a dicté les portraits des généraux de l'armée d'Italie. Masséna, d'un rare courage et d'une ténacité si remarquable, dont le talent croissait par l'excès du péril, qui, vaincu, était toujours prêt à recommencer comme s'il eût été vainqueur. Augereau, qui, tout au rebours, en avait toujours assez, était fatigué et comme découragé par la victoire même. Toutefois, Napoléon dit dans sa dictée que c'était Augereau surtout qui décida de la journée de Castiglione et que, quelque tort que l'empereur eût à lui reprocher par la suite, le souvenir de ce grand service national lui demeura constamment présent et triompha de tout. Serrurier, qui avait conservé dans les formes de la sévérité d'un ancien major d'infanterie, honnête homme, propre, sûr, mais général malheureux. Stengel, qui possédait si éminemment toutes les qualités d'un général d'avant-garde. La Harpe, grenadier par le cœur comme par la taille, qui périt si malheureusement. Vaubois, etc., etc. On trouvera le développement de tout cela aux divers chapitres de la campagne d'Italie. Dans divers objets de la conversation du jour, je note ce que l'empereur disait sur les armées des anciens. Il se demandait si l'on devait croire aux grandes armées dont il est question dans l'histoire. Il pensait que la plus grande partie des citations étaient fausses et ridicules. Ainsi, il ne croyait pas aux innombrables armées des Carthaginois en Sicile. Tant de troupes, observait-il, eussent été inutiles dans une aussi petite entreprise. Et si Carthage eût pu en réunir autant, on en eût vu davantage dans l'expédition d'Hannibal, qui était d'une bien autre importance, et qui pourtant n'avait pas au-delà de 40 à 50 000 hommes. Ainsi, il ne croyait point aux millions d'hommes de Darius et Xerxès qui eussent couvert toute la Grèce et se seraient sans doute subdivisés en une multitude d'armées partielles. Il doutait même de toute cette partie brillante de l'histoire de la Grèce. Il ne voyait dans le résultat de cette fameuse guerre persique que de ces actions indécises où chacun s'attribue la victoire. Xerxès s'en retourna triomphant d'avoir pris, brûlé et détruit Athènes, et les Grecs exaltèrent leur victoire de n'avoir pas succombé à Salamine. Quant aux détails pompeux des victoires des Grecs et des défaites de leurs innombrables ennemis, qu'on n'oublie pas, observa l'empereur, que ce sont les Grecs qui le disent, qu'ils étaient vains, hyperboliques, et qu'aucune chronique de Perse n'a jamais été produite pour assurer notre jugement par un débat contradictoire. Mais l'empereur croyait à l'histoire romaine, sinon dans tous ses détails, du moins dans ses résultats, parce qu'ils étaient des faits aussi patents que le soleil. Il croyait encore aux armées de Gengis Khan et de Tamerlan, quelque nombreuses qu'on les ait prétendues, parce qu'elles traînaient à leur suite des peuples nomades entiers, qui se grossissaient encore d'autres peuples dans leur route. Et il ne serait pas impossible, disait l'empereur, que l'Europe finît un jour de cette manière. La révolution opérée par les Huns, et dont on ignore la cause, parce que la trace s'en perd dans le désert, peut se renouveler. La Russie est admirablement bien située pour amener une telle catastrophe. Elle peut aller puiser à son gré d'innombrables auxiliaires et les déverser sur nous. Elle trouvera tous ces peuples errants d'autant mieux disposés, d'autant plus impatients, que le récit et les succès de ceux des leurs qui, dernièrement, ont exécuté chez nous des courses si heureuses et si productives, auront frappé leur imagination et exciter leur avidité. De là, la conversation a conduit aux conquêtes et aux conquérants, et l'empereur concluait que, pour être conquérant avec succès, il fallait nécessairement être féroce, et que, s'il eût voulu être féroce, il eût conquis le monde. J'ai osé me permettre de combattre ces dernières paroles, échappées sans doute à l'humeur du moment. J'ai osé représenter que lui, Napoléon, était précisément la preuve du contraire, qu'il n'avait point été féroce, et pourtant avait conquis le monde. Qu'avec de la férocité et une humeur moderne, il n'eût certainement jamais été jusque-là. En effet, la terreur n'est plus aujourd'hui ce qui peut nous soumettre à un homme, mais seulement de bonnes lois et la persuasion du grand caractère, la connaissance d'une énergie à toute épreuve dans celui chargé de la faire exécuter. Or, telles avaient été précisément, disais-je, la cause des succès de Napoléon, celle de la soumission et de l'obéissance des peuples. La convention fut féroce et inspira la terreur. On plia, mais on ne put la supporter. Si elle eût été un seul homme, elle s'en fut bientôt défaite, mais c'était une hydre, et encore que de tentatives ne hasarda-t-on pas, que de dangers auxquels elle n'échappa que par miracle, elle fut obligée de s'ensevelir elle-même au milieu de ses triomphes. Pour qu'un conquérant pût être féroce avec succès, il faudrait qu'il commandât à des soldats féroces eux-mêmes et qu'il régnât sur des peuples sans lumière. Or, sous ce rapport, la Russie encore possède un avantage immense sur le reste de l'Europe. Elle a le rare avantage d'avoir un gouvernement civilisé et des peuples barbares. Chez eux, les lumières dirigent et commandent, l'ignorance exécute et dévaste. Un sultan turc ne saurait aujourd'hui gouverner longtemps aucune des nations éclairées de l'Europe. L'empire des Lumières serait plus fort que sa puissance. Sur un autre sujet, l'empereur observait que nous autres Français, si nous avions moins d'énergie que les Romains, nous avions plus de bienséance. Nous ne nous serions pas donné la mort, comme eux, sous les premiers empereurs, mais aussi nous n'aurions pas montré toutes les turpitudes, toute la servilité qu'on rencontre sous les derniers. Même dans nos moments les plus corrompus, disait-il, notre bassesse n'était pas sans de certaines restrictions. Tels des courtisans à qui le prince eût pu tout faire chez lui, lui eussent refusé de s'agenouiller à son lever, etc., etc. J'ai déjà dit que nous n'avions avec nous presque aucun des documents sur les affaires de nos jours. Le peu de livres qui avaient suivi l'empereur n'étaient guère que des classiques qu'il accompagnait dans toutes ses campagnes. Je reçus du major Hodson, habitant de Lille, une collection politique depuis 1793 jusqu'à 1807, qui, sous le titre d'Annual Register, registre annuel, donne la suite assez bien rédigée des événements de chaque année, ainsi que quelques pièces officielles des plus importantes. Dans notre disette, ce fut une riche acquisition. Mardi 7, idées, projets, insinuations politiques, etc. L'empereur a déjeuné seul et a travaillé beaucoup dans la journée avec le grand maréchal et M. de Montholon. Le soir, n'étant que nous deux, nous promenant seuls assez tard dans l'allée inférieure devenue le lieu favori, je lui dis qu'une personne importante dont les idées, les récits pouvaient être notre intermédiaire avec le monde régulateur et influer sur notre destinée future, avait, avec des formes et des préalables assez significatifs, interpellé l'un de nous pour lui dire en conscience ce qu'il croyait de l'empereur touchant certains objets politiques. S'il avait donné sa dernière constitution avec la véritable intention de la maintenir, s'il avait renoncé de bonne foi à ses anciens projets du Grand Empire, s'il consentirait à laisser l'Angleterre jouir de la suprématie maritime, s'il ne lui envierait pas la tranquille possession de l'Inde, s'il ne se prêterait pas à renoncer aux colonies et à acheter des Anglais seuls les denrées coloniales au véritable prix du commerce, s'il ne s'unirait pas aux Américains dans le cas de leur rupture avec l'Angleterre, s'il ne consentirait pas à l'existence d'un grand royaume en Allemagne pour la maison d'Angleterre qui va perdre incessamment celui de la Grande-Bretagne lors de l'ascension au trône de la jeune princesse de Galles, ou, à défaut de l'Allemagne, s'il ne consentirait pas à laisser établir cette domination en Portugal au cas que l'Angleterre s'en arrangeât avec la cour du Brésil, etc. Ces questions ne reposaient pas sur des idées vagues ou des opinions oiseuses. Le personnage les appuyait sur des faits positifs. Nous avons besoin, disait-il, d'une paix longue et durable sur le continent, d'une jouissance paisible de nos avantages actuels pour sortir de la crise financière où nous sommes et alléger la dette incommensurable sous laquelle nous courbons. Or, l'état présent de la France, ajoutait-il, celui de l'Europe, ne saurait, avec les éléments actuels, nous procurer ce résultat. Notre victoire de Waterloo vous a perdu, mais elle est loin de nous avoir sauvés. Tous les hommes de bon sens chez nous, tous ceux qui peuvent échapper à l'influence momentanée des passions, le pensent ou le penseront ainsi, etc., etc. L'empereur doutait d'une partie de ce récit et traitait le reste de rêverie. Puis, se ravisant, il me dit « Eh bien, votre opinion, allons, monsieur, nous voilà au Conseil d'État. » « Sire, disais-je, on se permet souvent de rêver sur les matières les plus graves, et pour être emprisonné à Sainte-Hélène, il n'est pas défendu de composer des romans. Je vais donc en faire un. Pourquoi pas un mariage politique des deux peuples, où l'un porterait l'armée en dot et l'autre la flotte? Idée folle, sans doute, aux yeux du vulgaire, trop hardie peut-être, aux yeux des gens les plus exercés, et cela parce qu'elle est tout à fait neuve et hors de toute routine. » Mais pourtant, dans le genre de ces créations imprévues, lumineuses, utiles, qui caractérisent votre majesté, qu'elle seule peut faire écouter et savoir accomplir. Comment disais-je, allant sans doute au-delà des idées de l'interlocuteur anglais lui-même, votre majesté ne donnerait pas demain, si c'était en son pouvoir, tous les vaisseaux français pour racheter à la France la Belgique et la rive du Rhin? Elle ne donnerait pas 150 millions pour recevoir des dizaines de milliards. Et quel marché du reste que celui qui procurerait aux deux peuples à la fois l'objet pour lequel l'un et l'autre se ruinent et s'entr'égorgent sans cesse depuis tant d'années. Marché qui réduirait ces deux peuples à avoir réellement besoin l'un de l'autre au lieu d'être entretenus en une perpétuelle inimitié. Ne serait-ce donc rien pour la France, reçue désormais dans toutes les colonies anglaises, sur le pied des Anglais même, que d'avoir ainsi, sans coup férir, la jouissance du commerce de toute la terre? Ne serait-ce pas tout pour l'Angleterre que de s'assurer de son côté la souveraineté des mers, l'universalité du commerce, pour l'obtention et la conservation desquelles elle se met sans cesse en péril, en attachant désormais pour toujours à ce système la France, devenue le régulateur, l'arbitre même du continent. À l'abri désormais de toute crainte et forte de toutes les forces de sa compagne, l'Angleterre licencierait son armée pour prix du sacrifice que la France ferait de sa flotte. Elle pourrait même aussi réduire de beaucoup le nombre de ses vaisseaux. Alors elle paierait sa dette, allégerait ses peuples, elle prospérerait, et loin de jalouser la France à l'avenir, on la verrait, une fois que le système serait compris et que les passions auraient fait place aux vrais intérêts, on la verrait travailler elle-même à son agrandissement continental, puisque la France ne serait plus alors que l'avant-garde dont elle, l'Angleterre, demeurerait les ressources et la réserve. L'unité de législation politique des deux peuples, leurs intérêts communs, des résultats si visiblement avantageux, achèveraient de suppléer dans ces plans à ce que les passions des gouvernants pourraient présenter d'obstacles ou de difficultés, etc., etc. L'empereur m'écouta, mais il ne répondit rien. Rarement il se laisse pénétrer ou se prête à des conversations politiques. Dans la crainte de ne m'être pas assez clairement exprimé, je lui demandai de me permettre d'exposer ses idées sur le papier. Il y consentit et ne s'en expliqua pas davantage. Il était fort tard, il se retira. Mercredi 8, contrariété, réflexion morale. L'empereur a dicté, dans le jardin, successivement à messieurs de Montholon et Gourgaud, et de là a gagné l'allée favorite. Il se trouvait fatigué, malade. On a voulu gauchement lui présenter des femmes qui étaient venues se placer dans son chemin avec intention, ce qui l'a contrarié. Il les a évitées. Je lui ai parlé d'aller à cheval pour essayer de se distraire un peu. Nous avions 3 chevaux à notre disposition depuis quelques jours. L'empereur m'a répondu qu'il ne pouvait se faire à l'idée d'avoir constamment un officier anglais à ses côtés, qu'il renonçait décidément au cheval à ce prix, ajoutant que tout devait être calcul dans la vie, et que si le mal d'apercevoir son geôlier était plus grand que le bien que procurerait l'exercice, c'était un gain tout clair que d'y renoncer. l'empereur a peu dîné. Il s'est amusé au dessert à passer en revue les peintures de quelques assiettes de très belles porcelaines de Sèvres. Ce sont des chefs-d'œuvre du genre. Elles sont de 30 Napoléons pièces et toutes relatives à des vues ou à des objets d'Égypte. L'empereur a fini par se rendre dans son allée d'affection. Il s'était fort ennuyé tout le jour, disait-il. Après quelques conversations brisées et sans suite, il a regardé sa montre et s'est trouvé tout joyeux de voir qu'il avait atteint 10h30. La température était délicieuse. Insensiblement, l'empereur s'était remis tout à fait. Il se plaignait de sa constitution qui, bien que forte, le soumettait parfois aux plus légers dérangements physiques. Il se félicitait du reste que ses opinions morales fussent de nature à ne pas l'arrêter quand, à l'imitation des anciens, il voudrait se soustraire aux dégoûts et aux traverses de la vie. Il disait qu'il n'entrevoyait pas parfois sans horreur le grand nombre d'années qu'il pouvait encore avoir à courir, ainsi que l'inutilité d'une longue vieillesse, que s'il pouvait se dire que la France était heureuse, tranquille et sans besoin de lui, il aurait assez vécu. Nous remontâmes, il était plus de minuit, c'était une véritable victoire que d'avoir atteint cette heure tardive. Jeudi 9, l'empereur fait renvoyer les chevaux. Je suis allé d'assez bonne heure chez M. Malcombe, lui porter mes lettres pour l'Europe. Un bâtiment allait partir. J'y rencontrai l'officier chargé de notre garde. Frappé de l'état d'affaiblissement où j'avais vu l'empereur la veille et du besoin extrême qu'il avait de prendre quelque exercice, je dis à cet officier que je soupçonnais le motif qui empêchait l'empereur de sortir à cheval, que j'allais lui parler avec franchise et avec d'autant plus de facilité que j'appréciais tout à fait la manière délicate dont il remplissait son office auprès de nous. Je lui demandai donc quelles étaient ses instructions et ce qu'il ferait si l'empereur venait à se promener à cheval autour de la maison, lui faisant sentir la répugnance qu'il devait naturellement avoir pour tout ce qui était propre à lui rappeler à chaque instant la réclusion où il se trouvait, l'assurant du reste qu'il n'y avait rien qui lui fût personnel et que si l'empereur avait envie d'entreprendre de longues courses, j'étais persuadé qu'il le ferait demander de préférence pour en être accompagné. L'empereur me répondit que ses instructions étaient de suivre l'empereur, mais que ce faisant une loi de lui être le moins désagréable possible, il prenait sur lui de ne pas l'accompagner. À déjeuner, je fis part à l'empereur de ma conversation avec ce capitaine. Il me répondit que c'était bien à lui sans doute, mais qu'il n'en profiterait pas, n'étant pas dans ses principes de jouir d'un avantage qui pourrait compromettre un officier. Cette détermination fut trop heureuse. Entré le soir chez nos hôtes, le capitaine me prit à part pour me dire qu'ayant été à la ville dans la journée parler à l'amiral de notre conversation du matin, il lui avait enjoint de se conformer à ses instructions. Je ne pus m'empêcher de répondre avec vivacité que l'empereur allait ordonner le renvoi immédiat des 3 chevaux qu'on avait mis à notre disposition. L'officier, auquel je fis connaître du reste la réponse que l'empereur m'avait faite le matin à son sujet, me dit qu'il pensait aussi que c'était très bien de renvoyer les chevaux et qu'il n'y avait rien de mieux à faire. Réponse que je crus dictée par l'humeur qu'il éprouvait lui-même du rôle qu'on lui imposait. En sortant de chez nos hôtes, l'empereur continua de se promener dans l'allée. Je lui appris ce que venait de me dire l'officier anglais. On eût dit qu'il s'y attendait. Mais je ne m'étais pas trompé, il m'ordonna de faire renvoyer les chevaux. Comme ce contretemps m'avait été fort sensible, je lui dis, avec un peu de vivacité peut-être, que s'il me le permettait, j'allais rentrer auprès de l'officier pour qu'il eût à remplir sa volonté sur le champ. À quoi il répondit avec une gravité et un son de voix tout particulier, « Non, monsieur, point d'humeur. Rarement on fait bien dans cette situation. Il faut toujours laisser s'écouler la nuit sur l'injure de la veille. » Nous continuâmes jusqu'à près de minuit. La température était délicieuse. Vendredi 10, respect au fardeau. Aujourd'hui, après nos travaux ordinaires, l'empereur, prenant une direction nouvelle, est allé sur la route de la ville jusqu'au point d'où l'on aperçoit la rade et les vaisseaux. Au retour, il a été rencontré dans le chemin par Madame Malcombe, la maîtresse de notre maison, et une Madame Stuart, jeune femme de 20 ans, fort jolie, retournant de Bombay en Angleterre. l'empereur a causé avec elle des mœurs, des usages de l'Inde, des désagréments de la mer, surtout pour les femmes, de l'Écosse, patrie de Madame Stuart, beaucoup d'Ossiane, et l'a félicité de ce que le climat de l'Inde avait respecté son teint d'Écosse. Des esclaves chargés de lourdes caisses ont croisé notre route. Madame Balcombe, leur disant fort rudement de s'éloigner, l'empereur s'y est opposé, disant « Respect au fardeau, madame ». À ces mots, Madame Stuart, qui n'avait cessé de chercher avidement à la dérober les traits et la physionomie de l'empereur, laissa échapper tout bas à sa voisine « Mon Dieu, que voilà une figure et un caractère bien différents de ce qu'on m'avait dit !» Samedi 11 au lundi 13, conversation de minuit au clair de lune, etc. Les deux impératrices, mariage de Marie-Louise, sa maison, duchesse de Montebello, Madame de Montesquieu, institut de Meudon, sentiment de la maison d'Autriche pour Napoléon, anecdotes recueillies en Allemagne depuis le retour en Europe. Notre vie continuait d'être des plus régulières à Briars. Tous les jours, après m'avoir dicté, l'empereur sortait entre 3 et 4 heures. Il se rendait au jardin. Là, en se promenant, il dictait à celui qui était venu de la ville pour le travail, lequel écrivait sous la petite tonnelle. Vers les 5 heures et demie, il se rendait, en tournant la maison de nos voisins, dans l'allée intérieure à laquelle il s'attachait chaque jour davantage. Ceux-ci, alors, se trouvaient à leur dîner, ce qui assurait entièrement notre repos et la liberté de cette promenade. J'y venais joindre l'empereur, il y attendait qu'on l'avertît qu'il était servi. L'empereur y descendait encore après son dîner, quelquefois même on y apportait son café. Mon fils se rendait chez nos voisins, et nous restions à continuer la promenade. Nous marchions alors des heures entières, ce qui se prolongeait parfois fort avant dans la nuit, quand la lune nous éclairait. C'était là qu'à sa lueur et à la douce température du moment, nous oublions la chaleur brûlante du jour. Jamais l'empereur n'était plus causant, ni ne se trouvait de distraction plus complète. C'est dans la longueur et l'abandon de ses conversations qu'il se plaisait à raconter son enfance, les premières années de sa jeunesse, les sentiments et les illusions qui d'ordinaire les embellissent. Enfin, les détails de sa vie privée, depuis qu'il avait joué un rôle sur la grande scène du monde. J'ai rapporté ailleurs ce que j'ai cru pouvoir en répéter. Il semblait parfois embarrassé d'avoir parlé trop longuement et d'avoir exprimé des choses trop minutieuses, et me disait alors « Mais à votre tour à présent, un peu de vos histoires aussi, vous n'êtes pas conteur ». Je n'avais garde, juste trop craint de perdre quelque chose de ce qui m'attachait si vivement. C'est dans une de ces promenades nocturnes que l'empereur disait qu'il avait été fort occupé dans sa vie de deux femmes très différentes. L'une était l'art et les grâces, l'autre l'innocence et la simple nature, et chacune, observait-il, avait bien son prix. Dans aucun moment de la vie, la première n'avait de position ou d'attitude qui ne fût agréable ou séduisante. Il lui eût été impossible de lui surprendre ou d'en éprouver jamais aucun inconvénient. Tout ce que l'art put imaginer en faveur des attraits était employé par elle, mais avec un tel mystère qu'on n'en apercevait jamais rien. L'autre, au contraire, ne soupçonnait même pas qu'il pût y avoir rien à gagner dans d'innocents artifices. L'une était toujours à côté de la vérité, son premier mouvement était la négative, la seconde ignorait la dissimulation, tout détour lui était étranger. La première ne demandait jamais rien à son mari, mais elle lui devait tout, la seconde n'hésitait pas à demander quand elle n'avait plus, ce qui était fort rare. Elle n'aurait pas cru pouvoir jamais rien prendre sans payer aussitôt. Du reste, toutes les deux étaient bonnes, douces, fort attachées à leur mari. Mais on les a déjà devinées sans doute, et quiconque les a vues reconnaît les deux impératrices. L'empereur disait qu'il les avait constamment trouvées de l'humeur la plus égale et d'une complaisance absolue. Le mariage de Marie-Louise s'accomplit à Compiègne, immédiatement après son arrivée. L'empereur, déroutant toute l'étiquette convenue, alla au-devant d'elle et monta déguisé dans sa voiture. Elle fut agréablement surprise quand elle vint à le connaître. On lui avait toujours dit que Berthier, qui était venu l'épouser par procuration à Vienne, était, pour la figure et l'âge, l'exacte ressemblance de l'empereur. Elle laissa échapper qu'elle y trouvait une heureuse différence. l'empereur voulut lui épargner tous les détails de l'étiquette domestique en usage dans pareilles circonstances. On l'en avait, du reste, soigneusement instruite à Vienne. L'empereur, pour ce qui le regardait personnellement, lui demanda quelles instructions elle avait reçues de ses grands-parents. D'être à lui tout à fait, de lui obéir en toutes choses, fut sa réponse. Et ce fut aussi pour l'empereur la solution de tout cas de conscience, et non les décisions de certains cardinaux ou évêques, comme on l'a dit dans le temps. D'ailleurs, dans la même circonstance, Henri IV en avait agi de la sorte. Le mariage avec Marie-Louise, disait l'empereur, se proposa et se conclut dans le même jour et sous les mêmes formes et conditions que celui de Marie-Antoinette, dont le contrat fut adopté pour modèle. Depuis la séparation d'avec Joséphine, on traitait avec l'empereur de Russie pour une de ses sœurs. Les difficultés ne reposaient guère que sur des arrangements religieux. Le prince Eugène, causant avec monsieur de Schwarzenberg, a appris de lui que l'empereur d'Autriche ne serait pas éloigné de donner sa fille. Il en fit part à l'empereur. Un conseil fut convoqué pour décider quelle alliance de la Russie ou de l'Autriche serait la plus avantageuse. Eugène et Talleyrand furent pour l'Autriche, Cambacérès par la contre. La majorité fut en faveur d'une archiduchesse. Eugène fut chargé d'en faire l'ouverture officieuse et le ministre des Relations extérieures reçut des pouvoirs de signer dans le même jour, si l'occasion s'en présentait, ce qui en effet arriva ainsi. La Russie en prit beaucoup d'humeur et se regarda comme jouée. Elle ne l'était pas, il n'y avait rien d'obligatoire encore vis-à-vis d'elle. Les deux parties demeuraient tout à fait libres, les intérêts de la politique firent passer sur tout le reste. L'empereur donna pour dame d'honneur à l'impératrice Marie-Louise la duchesse de Montebello, le comte de Beauharnais pour chevalier d'honneur et le prince Aldobrandini pour écuyer. Lors des malheurs de 1814, ils ne répondirent pas, disait l'empereur, au dévouement que l'impératrice avait droit d'en attendre. Son écuyer la déserta sans prendre congé, son chevalier d'honneur ne voulut pas la suivre. Et la dame d'honneur, malgré l'extrême affection que lui portait l'impératrice, crut, disait Napoléon, tous ses devoirs accomplis lorsqu'elle l'eut déposé à Vienne. La duchesse de Montebello fut, dans le temps, un de ces choix heureux qui emportèrent l'approbation universelle. Elle était jeune, belle, d'une conduite parfaite, et veuve d'un général dit le Roland de l'armée qui venait d'expirer tout récemment sur le champ de bataille. Ce choix fut très agréable à l'armée et rassura le parti national qui s'effrayait de ce mariage, du nombre et de la quantité des chambellans dont on l'entourait, comme d'un pas vers ce que plusieurs appelaient la contre-révolution et cherchaient à faire considérer pour telle. Pour l'empereur, il avait été principalement déterminé par l'ignorance où il était du caractère de Marie-Louise et la crainte qu'elle n'apportât des préjugés de naissance qui eussent été nuisibles à la cour de l'empereur. Quand il l'eut connue, quand il sut qu'elle était tout à fait dans les idées du jour, l'empereur regretta de n'avoir pas fait un autre choix, de ne pas s'être arrêté sur la comtesse de Beauvau, qui, bonne, douce, inoffensive, n'aurait agi que par les conseils de famille de ses nombreux parents, et eût pu introduire ainsi une sorte de tradition utile et une grande quantité de subalternes bien recommandés. Elle eût pu rallier encore beaucoup de personnes qui demeuraient éloignées, et tout cela eût été sans nul inconvénient, parce que ce ne fut arrivé que par des combinaisons de l'empereur même, qui n'était pas homme à se laisser abuser. L'impératrice prit une affection des plus tendres pour la duchesse de Montebello. Celle-ci a pu être reine d'Espagne. Fernand VII à Valençay demanda à l'empereur d'épouser Mademoiselle de Tachère, cousine germaine de Joséphine et de son propre nom, à l'exemple du prince de Bade qui avait épousé Mademoiselle de Beauharnais. L'empereur, qui pensait déjà à se séparer de l'impératrice Joséphine, s'y refusa, ne voulant pas, par ce nouveau lien, compliquer encore davantage les difficultés. Plus tard, Ferdinand demanda la duchesse de Montebello ou toute autre française que l'empereur voudrait adopter. Cette demoiselle de Tachère est celle que l'empereur maria plus tard au duc d'Arenberg avec l'intention de la faire gouvernante des Pays-Bas, voulant par la suite du temps dédommager Bruxelles de la perte de son ancienne cour. l'empereur voulut mettre le comte de Narbonne, qui n'avait pas été étranger au mariage de l'impératrice, à la place du comte de Beauharnais. L'extrême chagrin qu'en fit paraître Marie-Louise retint l'empereur. L'éloignement de l'impératrice n'avait du reste d'autre cause que les intrigues de son entourage, qui n'avait rien à craindre de monsieur de Beauharnais, mais qui redoutait fort l'influence de monsieur de Narbonne. En général, quand l'empereur avait à nommer, nous disait-il, à des places délicates, il demandait d'ordinaire des candidats à ceux qui l'entouraient. Et c'est sur ces listes et les renseignements qu'il se procurait qu'il méditait son choix en secret. Il nous a nommé quelques-unes des personnes qu'on lui avait proposées pour dame d'honneur. La princesse de Vaudémont, une madame de La Rochefoucauld, devenue madame de Castellane, et plusieurs autres. Puis, il nous a demandé de dire nous-mêmes qui nous eussions proposé, ce qui nous a fait passer en revue une bonne partie de la cour. Au nom de madame de Montesquieu, indiqué par l'un de nous, « je le crois bien », a-t-il répondu, « mais elle était plus avantageusement placée encore. C'est une femme d'un rare mérite. Sa piété est sincère, ses principes excellents. Elle s'est acquis de grands titres à mon estime et à mon affection. » Il m'en eût fallu deux comme elle, une demi-douzaine. Je les eusse toutes placées dignement, et j'en eusse demandé encore. Elle a été parfaite à Vienne auprès de mon fils. Voici du reste qui donnera une idée juste de la manière dont elle élevait le roi de Rome. Ce jeune prince occupait le rez-de-chaussée donnant sur la cour des Tuileries. Il était peu d'heures de la journée où un grand nombre de spectateurs ne regardassent par la fenêtre dans l'espérance de l'apercevoir. Un jour qu'il était dans un violent accès de colère et qu'il se montrait rebelle à tous les efforts de madame de Montesquieu, elle ordonna de fermer à l'instant tous les contrevents. L'enfant, étourdi de cette obscurité subite, demanda aussitôt à maman Quiou pourquoi tout cela. « C'est que je vous aime trop, lui dit-elle, pour ne pas cacher votre colère à tout le monde. Que diraient toutes ces personnes que vous gouvernerez peut-être un jour si elles vous avaient vu dans cet état? Croyez-vous qu'elles voulussent vous obéir si elles vous savaient aussi méchant ?» Et l'enfant, de demander pardon aussitôt et de bien promettre que cela ne lui arriverait plus. Voilà, au fait, observait l'empereur, des manières différentes de celles de monsieur de Villeroy à Louis XV. « Regardez tout ce peuple, mon maître, il vous appartient, tous ces hommes que vous voyez là sont les vôtres. » Madame de Montesquieu était adorée de cet enfant. Quand on voulut la renvoyer de Vienne, il fallut employer la ruse et le tromper. Ce fut jusqu'à craindre pour sa santé. L'empereur avait beaucoup d'idées nouvelles touchant l'éducation du roi de Rome. Il comptait sur l'institut de Meudon, dont il avait déjà décrété les principes, attendant quelques loisirs pour leur développement. Il voulait y rassembler tous les princes de la maison impériale, surtout ceux de toutes les branches qu'il avait élevées sur des trônes étrangers. C'était là joindre, prétendait-il, aux soins de l'éducation particulière, tous les avantages de l'éducation en commun. Destinés, disait-il, à occuper divers trônes et à régir diverses nations, ces enfants auraient puisé là des principes communs, des mœurs pareilles, des idées semblables. Pour mieux faciliter la fusion et l'uniformité des parties fédératives de l'Empire, chacun de ces princes eut amené du dehors avec lui 10 ou 12 enfants, plus ou moins de son âge, et des premières familles de son pays. Quelle influence n'eussent-ils pas exercée chez eux au retour? Je ne doutais pas, continuait l'empereur, que les princes des autres dynasties étrangères à ma famille n'eussent bientôt sollicité de moi, comme une grande faveur, d'y voir admettre leurs enfants. Et quel avantage n'en serait-il pas résulté pour le bien-être des peuples composant l'association européenne? Tous ces jeunes princes, observait Napoléon, eussent été réunis d'assez bonne heure pour contracter des liens si chers et si puissants de la première enfance et séparés néanmoins assez tôt pour prévenir les funestes effets des passions naissantes. L'ardeur des préférences, l'ambition du succès, la jalousie de l'amour, etc. L'empereur eût voulu que toute l'éducation de ces princes-rois se fût fondée sur des connaissances générales, de grandes vues, des sommaires, des résultats. Il eût voulu des connaissances plutôt que de la science, du jugement plutôt que de l'acquis. l'application des détails plutôt que l'étude des théories, surtout point de partie spéciale trop poursuivie, car il estimait que la perfection, ou trop de succès dans certaines parties, soit des arts, soit des sciences, était un inconvénient pour le prince. Les peuples, disait-il, n'avaient qu'à perdre d'avoir un poète pour roi, un virtuose, un naturaliste, un chimiste, un tourneur, un serrurier, etc., etc. Marie-Louise avouait à l'empereur que, dans les premiers moments qu'il fut question de mariage, elle ne pouvait se défendre d'une certaine frayeur à cause de tout le mal qu'elle avait entendu dire de Napoléon parmi les siens. Sur quoi, quand elle rappelait tout cela, ses oncles, les archiducs, qui la poussaient fort à cette union, répondaient « Tout cela n'était vrai que quand il était notre ennemi, il ne l'est plus aujourd'hui ». Du reste, voici, disait l'empereur, qui donnera une idée de la bienveillance qu'on nous portait dans cette famille. Un de ces jeunes archiducs brûlait souvent de ses poupées, disant qu'il rôtissait Napoléon. Il est vrai que depuis, il disait qu'il ne le rôtirait plus, qu'il l'aimait beaucoup à présent, parce qu'il donnait beaucoup d'argent à sa sœur Louise pour lui envoyer force joujoux. Depuis mon retour en Europe, j'ai eu plus d'une occasion de me convaincre des sentiments que cette maison a professés plus tard pour Napoléon. Je tiens de la bouche du témoin même, personnage distingué qui me le racontait en Allemagne, qu'ayant eu une audience particulière de l'empereur François dans le voyage qu'il a fait en Italie en 1816, il y fut question de Napoléon. François n'en parla jamais que dans les meilleurs termes. On eût pu penser, me disait le narrateur, qu'il le croyait encore régnant en France et qu'il ignorait qu'il fût en cet instant à Sainte-Hélène. On ne lui donna jamais d'autre qualification que celle de l'empereur Napoléon. La même personne me racontait que l'archiduc Jean, visitant en Italie une rotonde au plafond de laquelle on voyait une action célèbre dont Napoléon était le héros, en levant la tête, son chapeau tomba par terre. Sa suite se précipita pour le lui rendre. « Laissez, laissez, dit-il, c'est dans cette attitude que l'on doit considérer l'homme qui se trouve là-haut. » Puisque j'en suis là, je vais consigner ici quelques circonstances que j'ai recueillies en Allemagne à mon retour en Europe, et pour leur assigner tout le prix qu'elles méritent, je dirais que je les tiens de personnes de la haute diplomatie. On sait que tous ces membres composent entre eux une espèce de famille, une sorte de maçonnerie, et que leurs sources sont les plus authentiques. L'impératrice Marie-Louise se plaint qu'en quittant la France, M. de Talleyrand s'était réservé l'honneur de venir lui demander la restitution des diamants de l'État et vérifier si elle s'était faite avec exactitude. En 1814, lors des désastres de la France, le prince Eugène fut l'objet de beaucoup de séductions et d'un grand nombre de propositions fort brillantes. Un général autrichien lui offrit la couronne d'Italie au nom des alliés, s'il voulait se joindre à eux. Cette offre lui vint de plus haut encore et à diverses reprises. Déjà, il avait été question de lui sous l'empereur pour les trônes de Portugal, de Naples et de Pologne. En 1815, des hommes importants dans la diplomatie européenne le sondèrent pour savoir si, dans le cas où Napoléon serait contraint d'abdiquer de nouveau et le choix du peuple se tournant vers lui, il accepterait. Dans ces circonstances, comme dans tant d'autres, ce prince fut inébranlable dans une ligne de devoir et d'honneur qui le rend immortel. Honneur et fidélité fut sa constante réponse et la postérité en fera sa devise. Lors de la distribution des États en 1814, l'empereur Alexandre, qui allait très souvent à la Malmaison chez l'impératrice Joséphine, voulait procurer à son fils la souveraineté de Gênes. Celle-ci la refusa à l'instigation d'un des diplomates dirigeants qui la flattait faussement de quelque chose de mieux. Au congrès de Vienne, le même empereur Alexandre, qui honorait le prince Eugène d'une bienveillance toute particulière, exigeait pour lui au moins 300 000 sujets. Il lui témoignait alors une très vive amitié et se promenait régulièrement chaque jour bras à bras avec lui. Le débarquement de Cannes vint mettre un terme, sinon au sentiment, du moins aux démonstrations et à l'intérêt politique de l'empereur de Russie. Il fut même question alors de la part de l'Autriche de se saisir de la personne d'Eugène et de l'envoyer prisonnier dans une forteresse de Hongrie. Mais le roi de Bavière, son beau-père, courut avec indignation chez l'empereur d'Autriche, lui représenter que Eugène était venu à Vienne sous sa protection et sa garantie, et que sa confiance ne serait point trompée. Aussi Eugène demeura-t-il libre sur sa parole et sur celle de son beau-père. Aussi tard que 1818, les pièces d'or de 20 francs et de 40 francs se frappaient à Milan encore à l'effigie de Napoléon et avec le millésime de 1814. Soit par voie d'économie ou tout autre motif, on n'avait point encore gravé de nouveaux coins. Alexandre, depuis la chute de Napoléon, a montré dans plusieurs circonstances particulières un éloignement vif et décidé contre lui. C'est Alexandre qui, en 1815, a été l'âme et le promoteur ardent de la seconde croisade contre Napoléon. Il a tout dirigé avec la dernière chaleur, semblant en faire une affaire personnelle, et faisant reposer son aversion sur ce qu'il en avait été, disait-il, trompé et joué. Si ce ressentiment tardif n'était pas affecté, on a des raisons de croire qu'il était dû à un ancien ministre et confident de Napoléon, qui, dans ses conversations particulières, avait eu l'art, durant le congrès de Vienne, de blesser l'amour-propre d'Alexandre par des récits, vrais ou faux, sur l'opinion et les confidences de Napoléon à l'égard de son illustre ami. En 1814, Alexandre a laissé croire qu'il ne se fût pas opposé à voir régner le jeune Napoléon. Depuis la seconde abdication, on est porté à penser qu'il a eu beaucoup moins de bienveillance. L'empereur Alexandre a marché dans la seconde croisade avec des masses immenses. On l'a entendu estimer à cette époque que la guerre pourrait bien durer 3 ans, mais que l'empereur n'en succomberait pas moins. À la première nouvelle de la bataille de Fleurus, les têtes de toutes les colonnes russes eurent l'ordre de s'arrêter sur le champ, tandis que la masse autrichienne et bavaroise de son côté obliqua à l'instant pour s'en séparer et faire bande à part. Si le congrès de Vienne eût été rompu lors du 20 mars, il est à peu près certain qu'on eût pu renouveler la croisade, et si Napoléon eût été victorieux à Waterloo, il est à peu près certain aussi qu'elle allait se trouver dissoute. La nouvelle du débarquement de Napoléon à Cannes fut un coup de foudre pour notre plénipotentiaire à Vienne. Il est très vrai qu'il fut le rédacteur de la fameuse déclaration du 13 mars, et, toute violente qu'elle l'est, le projet l'était encore bien davantage. Il fut amendé par les autres ministres. La figure et la contenance de ce plénipotentiaire, à mesure qu'on apprenait les progrès de Napoléon, furent un thermomètre qui fit la risée des membres du Congrès. L'Autriche sut de très bonne heure à quoi s'en tenir, ses courriers l'instruisaient à merveille. La légation française seule entretenait les doutes. Elle distribuait encore une lettre magnanime du roi à tous les souverains pour leur faire connaître qu'il était déterminé à mourir aux Tuileries, qu'on savait déjà que ce prince avait quitté la capitale pour gagner la frontière. Un membre du Congrès et Lord Wellington, s'entretenant confidentiellement avec la légation française et la carte à la main, assignèrent du 20 au 21 l'entrée de Napoléon dans Paris. L'empereur François, à mesure qu'il reçut les publications officielles de Grenoble et de Lyon, les envoya immédiatement à Schönbrunn, à Marie-Louise, qui s'y livra à une joie extrême. Et il est très vrai que plus tard, il a été question d'un enlèvement du jeune Napoléon pour le conduire en France. Le plénipotentiaire français finit par quitter Vienne et se transporta à Francfort et à Wiesbaden pour être en meilleure situation de négocier à la fois soit à Gand, soit à Paris. Jamais courtisan des événements n'eut plus d'embarras ni d'anxiété. L'ardeur que lui avait imprimée la nouvelle du débarquement à Cannes s'était fort calmée par celle de l'entrée de Napoléon à Paris, et il s'entendit avec Fouché pour que celui-ci le garantît auprès de Napoléon, s'engageant de son côté à garantir Fouché auprès des Bourbons. On a le droit de croire que les offres de ce plénipotentiaire envers le souverain revenu allèrent bien plus haut et bien plus loin encore, mais que Napoléon, indigné, les repoussa pour ne pas trop dégrader sa politique, a-t-il dit. En 1814, M. de Talleyrand, avant de se déclarer pour les Bourbons, fut d'abord pour la régence, mais il voulait y jouer le principal rôle. Des fatalités malheureuses pour la dynastie de Napoléon empêchèrent de mettre à profit ce moment d'incertitude. Tout semble prouver d'ailleurs que le résultat qui prévalut était alors loin d'être dans les intentions de l'Autriche, qu'elle y a été probablement jouée et trahie, ou du moins enlevée d'assaut. La fatalité des mouvements militaires a fait que les Alliés sont entrés dans Paris sans que le cabinet autrichien y ait concouru. la fameuse déclaration d'Alexandre contre Napoléon Bonaparte et sa famille a été faite sans que cette même puissance d'Autriche fût consultée. Et monsieur le comte d'Artois n'a pénétré en France qu'en s'y glissant, en dépit du quartier général autrichien qui même lui avait refusé des passeports. Il paraît que l'Autriche, au retour de Moscou, s'employa de bonne foi à Londres pour y négocier la paix avec Napoléon, mais le cabinet russe y était tout puissant et ne voulut entendre à rien. Arriva l'armistice de Dresde et l'Autriche alors prit le parti de la guerre. Le négociateur autrichien à Londres, durant tout cet intervalle, ne put jamais être écouté. Il y resta, néanmoins, fort longtemps encore, et ne quitta que lorsque les alliés étaient au cœur de la France, et au moment où Lord Castlereagh fit pressentir un instant que les succès héroïques de Napoléon à Champaubert, à Montereau, son entrée victorieuse à Troyes, pouvaient rendre les négociations indispensables. Si, dans le principe, ce négociateur n'eût pas été envoyé à Londres, il eût été destiné pour Paris, et peut-être eût-il influé alors de manière à amener une tournure différente de celle qui eut lieu, durant son absence, entre les Tuileries et Vienne. Dans le plus fort de la crise, il se trouva retenu en Angleterre comme par force. Dans son impatience de rejoindre le centre des grandes négociations, il quitta son poste et gagna la Hollande en bravant une grande tempête. À peine arrivait-il sur le théâtre des affaires qu'il tomba entre les mains de Napoléon à Saint-Dizier. Mais le sort de la France était alors décidé, bien qu'on ne le sût pas encore au quartier général français, Alexandre entrait dans Paris. Le négociateur autrichien avait vainement employé tous les moyens pour se procurer à Londres un passeport qui lui permit de rejoindre son maître en passant par Calais et Paris. Ce contretemps accidentel ou médité fut une fatalité de plus. Il eût gagné Paris avant les alliés, se fut trouvé auprès de Marie-Louise, eût déjoué les derniers projets de M. de Talleyrand et produit des combinaisons nouvelles. Il existait deux opinions dans le cabinet autrichien, l'une pour l'union avec la France, l'autre pour l'alliance avec la Russie. Soit intrigue, soit fatalité, le parti russe l'emporta tout à fait, et l'Autriche ne fut plus qu'entraînée. Mardi 14, petits détails intérieurs, etc., réflexion. Ce matin, on a servi à déjeuner du café plus supportable, il était même bon. L'empereur a manifesté un vrai plaisir en le goûtant. Quelques moments plus tard, il disait, en frottant son estomac de la main, qu'il en sentait le bien là. Il serait difficile de rendre mes sentiments à ces simples paroles. L'empereur, en appréciant ainsi, contre son usage, une si légère jouissance, me découvrait, sans le savoir, les progrès de toutes les privations qu'on lui impose et dont il ne se plaint pas. Le soir, en remontant de notre promenade de l'après-dînée, l'empereur, dans sa chambre, m'a lu le chapitre des consuls provisoires, dicté à M. de Montholon. La lecture finie, l'empereur a pris un ruban et s'est mis à attacher lui-même les feuilles éparses. Il était tard, le silence de la nuit régnait autour de nous. Je contemplais l'empereur dans son travail qui se prolongeait. Mes réflexions étaient ce jour-là tournées vers la mélancolie. Je regardais ses mains qui ont régi tant de sceptres. Elles étaient en cet instant occupées tranquillement, peut-être même non sans quelque charme, à rattacher de simples feuilles de papier auxquelles il imprime, il est vrai, des traits qui ne se perdront jamais. Les portraits qu'il y sème demeureront des jugements pour la postérité. C'est le livre de vie ou de mort pour beaucoup de ceux qui en sont l'objet. Je me disais silencieusement toutes ces choses, d'autres encore. Et l'empereur me lit tout ça, pensais-je, il me parle familièrement, il me demande parfois ce que je pense, j'ose hasarder mon avis. Ah, je ne suis point à plaindre d'être venu à Sainte-Hélène. Mercredi 15, détails très privés, etc., etc., rapprochement bien bizarre. Aussitôt après son dîner, l'empereur est descendu dans son allée inférieure. Il s'y est fait apporter son café qu'il a pris en se promenant. La conversation est tombée sur l'amour. j'ai dû dire de fort belles choses et très délicates sur ce grand sujet, et me montrer fort sentimental, car l'empereur, se mettant à rire de ce qu'il appelait mon gazouillement, m'a dit ne rien comprendre à mon verbiage de roman, et, parlant à son tour très légèrement, il a affecté de vouloir paraître beaucoup plus familier avec les sensations qu'avec les sentiments. Je me suis permis d'observer qu'il s'efforçait de se rendre plus mauvais que ne le portaient les relations du palais, relations très authentiques, bien que fort secrètes. « Et qu'ont-elles dit ? » reprenait-il en me fixant gaiement. « Sire, on veut qu'au sommet de votre toute-puissance, vous vous soyez laissé imposer de douces chaînes, que vous vous soyez trouvé le héros d'un roman, que, dans une résistance qui vous surprenait, vous vous soyez attaché à une simple dame, que vous lui ayez bien écrit une douzaine de lettres, qu'elle vous ait amené et contraint à vous soumettre au travestissement, à vous rendre seul nuitamment chez elle, dans sa propre demeure, au milieu de Paris. « Mais comment l'aurait-on su ? » a-t-il dit en souriant, ce qui ne voulait pas dire non. Et on a ajouté, sans doute a-t-il continué, que c'était la plus grande imprudence de ma vie, car si elle n'eût pas été honnête femme, que ne pouvait-il pas m'arriver, seule et déguisée, dans les circonstances où je me trouvais, au milieu des embûches dont j'étais entouré. Mais que disait-on encore ? Sire, on voulait que la postérité de votre majesté ne se bornât pas au roi de Rome. La chronique secrète lui donnait deux aînés, l'un venu d'une belle étrangère que vous auriez aimée en pays lointain, l'autre fruit d'une occupation plus voisine au sein même de votre capitale. On voulait que tous deux fussent venus à la Malmaison avant notre départ, l'un amené par sa mère, l'autre introduit par son tuteur, tous deux les vivants portraits de leur père. L'empereur riait beaucoup de tant de science, disait-il, et une fois en gaieté, il s'est mis à repasser franchement, dans un entier abandon, ses premières années, et m'a raconté force aventures de cœur et d'esprit. Je passe la première moitié. Dans la seconde, je citerai un souper au commencement de la Révolution, dans le voisinage de la Saône et en compagnie du fidèle Démazy, que l'empereur racontait de la manière la plus plaisante. Véritable guépier, disait-on, où son éloquence patriotique avait eu fort à faire contre la doctrine opposée du reste des convives et l'avait même presque mis en danger. Nous étions alors sans doute, vous et moi, bien loin l'un de l'autre, a-t-il observé. « Mais pas tant pour la distance, sire, ai-je répondu, quoique beaucoup assurément pour les doctrines. J'étais alors moi aussi dans le voisinage de la Saône, sur un des quais de Lyon, où des patriotes attroupés déclamant contre les canons qu'ils venaient de découvrir dans des barques et qu'ils appelaient une contre-révolution, je me permis d'ouvrir, fort mal à propos, l'avis de s'assurer que ces canons en leur faisant prêter le serment civique. Mon impertinence faillit me faire pendre. Vous voyez, sire, que j'aurais pu, au besoin, et dans cet instant même, balancer votre compte s'il vous fût arrivé malheur parmi vos aristocrates. » Ce rapprochement bizarre ne fut pas le seul de la soirée. L'empereur, m'ayant raconté une anecdote intéressante de 1788, me dit « Vous, où pouviez-vous être alors ?»« Sire, répondis-je après quelques secondes de recherche, à la Martinique, soupant tous les soirs, à côté de la future impératrice Joséphine. » La pluie vint, et il a fallu quitter cette allée, qui peut-être un jour, disait l'empereur, ne reviendra pas sans charme dans notre souvenir. « Cela peut être, observai-je, mais assurément ce ne sera pas sans l'avoir quitté. En attendant, contentons-nous de l'appeler l'allée de la philosophie, puisqu'elle ne peut être celle du l'été. » Jeudi 16, sur le faubourg Saint-Germain, etc., l'empereur sans préjugés, sans fiel, etc., parole caractéristique. Aujourd'hui, l'empereur s'informait du faubourg Saint-Germain. Il me questionnait sur ce dernier boulevard, disait-il, de la vieille aristocratie, ce refuge encroûté de vieux préjugés, la Ligue germanique, ainsi qu'il l'appelait. Je lui disais qu'avant les derniers revers, son pouvoir y avait pénétré de toutes parts. Il se trouvait envahi, il n'en restait plus que le nom. Il avait été ébranlé, vaincu par sa gloire. Les victoires d'Austerlitz et Iéna, le triomphe de Tilsit l'avaient conquis. Les jeunes gens, tous les cœurs généreux, n'avaient pu être insensibles au lustre de la patrie. Son mariage avec Marie-Louise avait porté le dernier coup. il n'y avait plus eu d'autres mécontents que ceux dont l'ambition était non satisfaite, ce qui se retrouve dans toutes les classes et dans tous les temps, ou bien encore quelques vieillards intraitables ou de vieilles femmes pleurant leur influence passée. Tous les gens raisonnables et sensés avaient plié sous les talents supérieurs du chef de l'État et cherchaient à se consoler de leurs pertes dans l'espoir d'un meilleur avenir pour leurs enfants. Vers ce point se tournaient désormais toutes leurs illusions. Ils savaient gré à l'empereur de sa partialité pour les anciens noms. Tout autre, convenait-il, eût achevé de les anéantir. Ils mettaient du prix à la confiance avec laquelle l'empereur s'était entouré d'eux. Il lui tenait compte d'avoir dit, en se saisissant de leurs enfants pour l'armée, « Ces noms appartiennent à la France, à l'histoire. Je suis le tuteur de leur gloire. Je ne les laisserai pas périr. » Ces mots, et d'autres semblables, lui avaient fait un grand nombre de prosélytes. L'empereur disait en ce moment que ce parti n'avait peut-être pas été assez caressé. « Mon système de fusion le demandait, et je l'avais voulu, ordonné même, mais les ministres, les grands intermédiaires, n'ont jamais bien rempli mes véritables intentions à cet égard, soit qu'ils n'y visent pas plus loin, soit qu'ils craignissent d'amener ainsi des rivaux de faveur et de diminuer leurs chances. Monsieur de Talleyrand, surtout, s'y était toujours montré contraire et n'avait jamais cessé de combattre l'ancienne noblesse dans ma bienveillance et ma pensée. » Je lui faisais observer pourtant que le grand nombre de ceux qu'il avait appelés s'étaient bientôt montrés attachés à sa personne, qu'il l'avait servi de bonne foi et était en général demeuré fidèle au moment de la crise. L'empereur n'en disconvenait pas et allait même jusqu'à dire que le roi revenu et lui ayant abdiqué, cette double circonstance aurait dû beaucoup influer sur certaines doctrines. Qu'aussi, dans son jugement, il mettait une grande différence dans la même conduite tenue en 1814 ou en 1815. Et ici, je dois dire que depuis que j'apprends à connaître l'empereur, je ne lui ai jamais encore vu un seul moment de colère ou d'animosité contre aucun de ceux qui se sont le plus mal conduits à son égard. Il ne s'exalte pas sur ceux dont on lui vante la belle conduite, ils avaient fait leur devoir. Il ne s'emporte pas contre ceux qui se sont rendus si coupables, il les avait en partie devinés, ils avaient cédé à leur nature. Il les peignait froidement, sans fiel, attribuait une partie de leur conduite aux circonstances qu'ils confessaient avoir été bien difficiles, rejetait le reste sur les faiblesses humaines. La vanité avait perdu M, la postérité flétrira justement sa vie, disait-il. Pourtant, son cœur vaudra mieux que sa mémoire. Augereau devait sa conduite à son peu de lumière et à son mauvais entourage, Berthier à son manque d'esprit et à sa nullité, etc. Je faisais observer que ce dernier avait laissé passer la plus belle occasion, la plus facile de s'illustrer à jamais, celle d'aller présenter de bonne foi ses soumissions au roi et de le supplier de trouver bon qu'il allât, dans la solitude, pleurer celui qui l'avait honoré du titre de son compagnon d'armes et l'avait appelé son ami. « Eh bien, quelque simple que fût cette marche, disait l'empereur, elle était encore au-dessus de ses forces. » Ses moyens, sa capacité, avaient toujours été un objet de discussion parmi nous, lui disais-je. Le choix de votre majesté, votre confiance, votre grand attachement nous étonnait beaucoup. C'est que Berthier, après tout, n'était pas sans talent, disait à cela l'empereur, et je suis loin de renier sa personne et mes sentiments, mais ses talents, son mérite, étaient spéciaux et techniques, et hors de là, sans nul esprit quelconque, et puis si faible. J'observais que pourtant il était plein de prétentions et de morgues contre nous. « Et le titre de favori, disait l'empereur, le comptez-vous pour rien ?» J'ajoutais qu'il était très dur, fort absolu. « Mais rien de plus impérieux, mon cher, disait alors l'empereur, que la faiblesse qui se sent étayée de la force, voyez les femmes. » L'empereur, dans ses campagnes, avait Berthier dans sa voiture. C'était pendant sa route et sur les grands chemins que l'empereur, parcourant les livres d'ordre et les états de situation, prenait ses décisions, arrêtait ses plans et ordonnait les mouvements. Berthier en prenait note et, à la première station ou au premier moment de repos, soit de jour, soit de nuit, il expédiait à son tour tous les ordres et les différents détails particuliers avec une régularité, une précision et une promptitude admirables, disait l'empereur. C'était un travail pour lequel il était toujours prêt et infatigable. Voilà quel était le mérite spécial de Berthier. Il était des plus grands et des plus précieux pour moi, observait l'empereur. Nul autre n'eût pu le remplacer. Je reviens encore à quelques touches caractéristiques sur l'empereur. Il est sûr qu'il parle froidement, sans passion, sans préjugés, sans ressentiment, des circonstances et des personnes qui remplissent sa vie. On sent qu'il pourrait devenir l'allié de ses plus cruels ennemis, comme vivre avec l'homme qui lui a fait le plus de mal. Il parle de son histoire passée comme si elle avait déjà 300 ans de date. Ses récits et ses observations ont le langage des siècles. C'est une ombre conversant aux Champs-Élysées, de vrais dialogues de mort. Il s'exprime souvent sur lui-même comme une tierce personne, parlant des actes de l'empereur, indiquant les faits que l'histoire pourrait lui reprocher, analysant les raisons et les motifs qu'on pourrait alléguer pour sa justification. Il n'aurait pas, disait-il, à s'excuser d'aucune faute sur autrui, n'ayant jamais suivi que sa propre décision. Il aurait à se plaindre tout au plus de fausses informations, mais jamais de mauvais conseils. Il s'était entouré du plus de lumière possible, mais s'en était toujours tenu à son propre jugement. Il était loin de s'en repentir. C'était, disait-il, l'indécision et l'anarchie dans les moteurs qui amènent l'anarchie et la faiblesse dans les résultats. Pour être équitable sur les fautes produites par la seule décision personnelle de l'empereur, continuait-il, il faudrait mettre en balance les grandes décisions dont on l'aurait privé, et les autres fautes que lui auraient fait commettre les conseils auxquels on lui reproche de ne pas s'être abandonné, etc. Dans la complication des circonstances de sa chute, il voit les choses tellement en masse et de si haut que les hommes lui échappent. Jamais on ne l'a surpris animé contre aucun de ceux dont on croirait qu'il a le plus à se plaindre. Sa plus grande marque de réprobation, et j'en me suis convaincu bien souvent, est de garder le silence sur leur compte quand on les mentionne devant lui. Mais combien de fois on l'a vu arrêter les expressions violentes et moins retenues de nous qui l'entourions. « Vous ne connaissez pas les hommes, nous disait-il alors, ils sont difficiles à saisir quand on veut être juste. » Se connaissent-ils? S'expliquent-ils bien eux-mêmes? La plupart de ceux qui m'ont abandonné, si j'avais continué d'être heureux, n'eussent peut-être jamais soupçonné leur propre défection. Il est des vices et des vertus de circonstance. Nos dernières épreuves sont au-dessus de toutes les forces humaines. Et puis j'ai été plutôt abandonné que trahi. Il y a eu plus de faiblesse autour de moi que de perfidie. C'est le reniement de Saint-Pierre. Le repentir et les larmes peuvent être à la porte. » À côté de cela, qui, dans l'histoire, eut plus de partisans et d'amis? Qui fut plus populaire et plus aimé? Qui jamais laissa des regrets plus ardents et plus vifs? Voyez la France. D'ici, sur mon roc, ne serait-on pas tenté de dire que j'y règne encore? Les rois et les princes, mes alliés, m'ont été fidèles jusqu'à l'extinction. Ils ont été enlevés par les peuples en masse, et ceux des miens qui étaient autour de moi se sont trouvés enveloppés, tout étourdis, dans un tourbillon irrésistible. Non, la nature humaine pouvait se montrer plus laide, et moi plus à plaindre. Vendredi 17, sur les officiers de sa maison en 1814, etc., projet d'adresse. Aujourd'hui, l'empereur me questionnait sur les officiers de sa maison. À l'exception de 2 ou 3 au plus qui avaient excité les mépris du parti même vers lesquels ils avaient été transfuges, il n'y avait guère rien à dire sur le reste. La très grande majorité avait même montré un dévouement actif. L'empereur alors s'est enquis particulièrement de quelques-uns en les citant par leur nom, et je n'avais qu'à applaudir à tous. « Que me dites-vous là » a-t-il dit au sujet de l'un d'eux en m'interrompant vivement, et moi qui l'ai si mal reçu aux Tuileries à mon retour. Ah, je crains d'avoir fait des injustices involontaires. C'est que, alors, lorsqu'on est obligé de s'en rapporter au premier mot et qu'on n'a pas un seul instant pour la vérification, que je crains aussi d'avoir laissé bien des dettes de reconnaissance en arrière, qu'on est malheureux quand on ne peut pas tout faire soi-même. » Je repris, « Sire, il est vrai de dire qu'il y eut faute parmi les officiers de votre maison. Elle ne fut pas autre que celle de toute la masse, faute du reste qui a dû nous ravaler étrangement aux yeux des autres nations. Sitôt que le roi apparut, on s'est précipité vers lui, non pas comme vers le souverain que nous laissait votre abdication, mais comme vers celui qui n'avait jamais cessé de l'être. » Non pas avec cette dignité de l'homme fier d'avoir constamment rempli tous ses devoirs, mais avec l'embarras équivoque du courtisan qui a été maladroit. Chacun n'a cherché qu'à se justifier. Votre Majesté se trouva dès cet instant désavouée, reniée. La qualification d'empereur disparut. Les ministres, les grands, les plus intimes de Votre Majesté ne rougirent pas pour eux, pour leur nation, de ne plus dire que Bonaparte. On avait été contraint de servir, disait-on, on n'avait pas pu faire autrement, on eût eu trop de mauvais traitements à redouter, etc. L'empereur trouvait bien là notre caractère national, nous étions toujours les Gaulois d'autrefois, la légèreté, la même inconstance et surtout la même vanité. Quand pourrons-nous enfin, disait-il, échanger celle-ci contre un peu d'orgueil ? Toutefois, disais-je, les officiers de la maison de Votre Majesté ont laissé échapper une belle occasion de s'honorer tout en se rendant populaire. Il y avait au-delà de 150 officiers dans la maison. Un très grand nombre étaient des premiers noms. Tous avaient une fortune indépendante. C'était à eux qu'il convenait de présenter un exemple qui, suivi par d'autres, eût pu donner une toute autre impulsion à l'attitude nationale et nous créer des droits à l'estime publique. « Eh bien, dit l'empereur, il est sûr que si toutes les premières classes eussent agi de la sorte, les affaires eussent tourné bien différemment. Les vieux réacteurs n'eussent point rêvé leur chimère du bon vieux temps, on ne serait pas venu vous parler de la ligne droite ni de la ligne courbe. Le roi se serait attaché tout bonnement à sa charte, moi je n'eusse pas songé à quitter l'île d'Elbe. » La tête de la nation se serait inscrite dans l'histoire avec plus d'honneur et de dignité. Nous y aurions tous gagné. Projet d'adresse. Sire, les sous-signés qui firent partie de la maison de l'empereur Napoléon sollicitent de votre majesté le bienfait d'un regard particulier. Héritiers des obligations de leur père, ils furent dans les temps fidèles défenseurs des trônes. Plusieurs ont suivi Votre Majesté durant de longues années en terre étrangère et scellé leur dévouement de la privation et de leur patrimoine. Ce furent précisément ces principes connus et cette conduite avouée qui devinrent leur titre et firent jeter les yeux sur eux quand il s'agit de relever un trône et de l'entourer. L'attente de celui-ci qui s'environna de nous ne fut point trompée, elle ne pouvait l'être. Nous avions rempli ces nouvelles obligations avec honneur et fidélité. Ces sentiments, sire, gages certains de tous les autres, nous suffiraient pour notre propre estime si nous croyons pouvoir demeurer oisivement à l'écart. Mais que doit être un repos absolu pour de loyaux et bons Français? Et pourtant, si quelques-uns d'entre nous se croyaient réduits par délicatesse à attendre en silence de nouveaux devoirs, leurs motifs ne pouvaient-ils pas être méconnus? D'un autre côté, ne pourrait-on pas se méprendre également sur ceux qui, ne cédant qu'à leur cœur, se précipiteraient au-devant des faveurs de Votre Majesté ? Telle est, sire, la position particulière et si délicate dans laquelle nous nous trouvons. Mais elle a déjà cessé si Votre Majesté a daigné l'entendre. Son âme royale comprendra le mouvement délicat qui nous guide et, en cet instant, accueillera nos vœux sincères de la servir ainsi que la patrie avec notre zèle et notre fidélité accoutumée. Il devint difficile de trouver des signataires à un acte aussi mesuré. On aurait de la peine à croire que cet aveu authentique et non réprouvé de nos fonctions, les mots « d'empereur Napoléon » surtout, furent de grandes objections. Chacun y trouva la sienne, suivant son caractère. Telles furent les mœurs du jour. On ne put réunir que 17 signatures, 18 ou 20 promirent de s'y joindre quand il y en aurait 25, mais aucun en voulait aider à compléter le nombre. D'eux-mêmes, croyant avoir commis une crânerie qu'ils n'avaient pas bien comprise, leur intention n'ayant été que de solliciter la confirmation de leur place, reconnurent après leur signature et la raturèrent. L'original de cette pièce doit être demeuré entre les mains d'un des signataires à Paris ou à Versailles. Samedi 18, idée de l'empereur de se réserver la Corse, opinion de Robespierre, idée sur l'opinion publique, intention expiatoire de l'empereur sur les victimes de la Révolution. Après le travail accoutumé, l'empereur m'a amené au jardin vers les 4 heures. Il venait de finir la dictée sur la Corse, ayant épuisé le sujet sur cette île, celui de Paoli, et parlé de l'influence que lui-même s'y était créé, si jeune encore, lors de sa séparation politique d'avec Paoli. Il a ajouté que, dernièrement, il eût été bien sûr d'y réunir tous les vœux, toutes les opinions, tous les efforts, que s'il s'y était retiré en quittant Paris, il eût été à l'abri contre toute puissance étrangère. Il en avait eu la pensée. En abdiquant pour son fils, il avait été sur le point de se réserver la jouissance de la Corse durant sa vie. Aucun obstacle de mer ne l'eût empêché d'y arriver. Il ne le voulut point pour rendre, disait-il, son abdication plus franche, plus fructueuse pour la France. Son séjour au centre de la Méditerranée, au sein de l'Europe, si près de la France et de l'Italie, pouvait demeurer un prétexte durable pour les alliés. Il préféra même l'Amérique à l'Angleterre par le même motif et dans la même pensée. Il est vrai qu'il n'avait pas prévu, disait-il, et ne pouvait prévoir, d'après la confiance de ses démarches, l'injuste et violente déportation à Sainte-Hélène. Et plus tard, l'empereur, parcourant divers points de la Révolution, s'était arrêté sur Robespierre, qu'il n'a pas connu, il est vrai, mais auquel il ne croyait ni talent, ni force, ni système. Il le pensait néanmoins le vrai bouc émissaire de la Révolution, immolé dès qu'il avait voulu entreprendre de l'arrêter dans sa course. Destinée commune, du reste, observait-il, à tous ceux qui, jusqu'à lui, Napoléon, avaient osé l'essayer. Les terroristes et leurs doctrines ont survécu à Robespierre, et si leurs excès ne se sont pas continués, c'est qu'il leur a fallu plier devant l'opinion publique. Ils ont tout jeté sur Robespierre, mais celui-ci leur répondait, avant de périr, qu'il était étranger aux dernières exécutions, que depuis 6 semaines, il n'avait pas paru au comité. Napoléon confessait qu'à l'armée de Nice, il avait vu de longues lettres de lui à son frère, blâmant les horreurs des commissaires conventionnels qui perdaient, disait-il, la Révolution par leur tyrannie et leurs atrocités, etc., etc. Cambacérès, qui doit être une autorité sur cette époque, observait l'empereur, a répondu à l'interpellation qu'il lui adressait un jour sur la condamnation de Robespierre par ces paroles remarquables. « Sire, cela a été un procès jugé, mais non plaidé. » Ajoutant que Robespierre avait plus de suite et de conception qu'on ne pensait, et qu'après avoir renversé les factions effrénées qu'il avait eues à combattre, son intention avait été le retour à l'ordre et à la modération, « quelque temps avant sa chute, ajoutait Cambacérès, il prononça un discours à ce sujet, plein des plus grandes beautés. On ne l'a point laissé insérer au moniteur, et toutes les traces nous en ont été enlevés. Ce n'est pas la première fois que j'ai entendu parler d'une lacune d'exactitude dans le moniteur. Il doit y avoir, vers ce temps-là, des transactions de l'Assemblée, une époque tout à fait infidèle, les procès-verbaux ayant été arbitrairement rédigés par l'un des comités. Ceux qui ont porté à croire que Robespierre, étant lassé, gorgé, effrayé de la Révolution, avait résolu de l'arrêter, disent qu'il ne voulut agir qu'après avoir lu son fameux discours. Il le trouvait si beau qu'il ne doutait pas de son effet sur l'Assemblée. S'il en est ainsi, son erreur ou sa vanité lui coûtèrent cher. Ceux qui pensent différemment objectent que Danton et Camille Desmoulins avaient précisément la même pensée et que pourtant Robespierre les immola. Les premiers répondent que ce ne serait pas une raison que Robespierre les immola pour conserver sa popularité. Quand il jugea que le moment n'était pas encore venu, ou bien encore pour ne pas leur laisser la gloire de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, plus on s'est approché des instruments et des acteurs de cette catastrophe, et plus on y a trouvé de l'obscurité et du mystère. Cela ne fera que s'accroître encore avec le temps. Aussi la vérité de l'histoire, sur ce point comme sur tant d'autres, ne sera probablement pas ce qui a eu lieu, mais seulement ce qui sera raconté. Au sujet de ce même Robespierre, l'empereur disait qu'il avait beaucoup connu son frère, représentant à l'armée d'Italie. Il n'en disait point de mal, il l'avait conduit au feu, lui avait inspiré beaucoup de confiance et un grand enthousiasme pour sa personne. Si bien que, rappelé par son frère, quelque temps avant le 9 Thermidor qui se préparait sourdement, Robespierre le jeune voulait absolument mener Napoléon à Paris. Celui-ci eut toutes les peines du monde à s'en défendre et ne parvint à lui échapper qu'en faisant intervenir le général en chef Dumerbion, dont il avait toute la confiance et auquel il se montra comme absolument nécessaire. « Si je l'eusse suivi, disait Napoléon, quelle pouvait être la différence de ma destinée? À quoi tient, après tout, une carrière? On eût sans doute voulu m'employer. Je pouvais donc être destiné, dès cet instant, à tenter une espèce de vendémiaire. » Mais j'étais bien jeune encore, je n'avais point alors mes idées arrêtées comme je les ai eues depuis. je crois bien que je n'eusse pas voulu l'accepter. Mais dans le cas contraire, et même victorieux, quel résultat eussé-je pu espérer? En Vendémiaire, la fièvre de la Révolution était tout à fait affaissée. En Thermidor, elle était encore dans toute sa force, dans la rage de son ascension et de ses excès, etc., etc. L'opinion publique, disait-il, dans un autre moment et sur un autre sujet, est une puissance invisible, mystérieuse, à laquelle rien ne résiste. Rien n'est plus mobile, plus vague et plus fort. Et toute capricieuse qu'elle l'est, elle est cependant vraie, raisonnable, juste, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Étant consul provisoire, un des premiers actes de mon administration fut la déportation d'une cinquantaine d'anarchistes. L'opinion publique, à laquelle ils étaient en horreur, tourna subitement pour eux, disait l'empereur, et me força à reculer. Mais quelque temps après, ces mêmes anarchistes, ayant voulu comploter, ils furent terrassés de nouveau par cette même opinion qui me revint aussitôt. C'est ainsi qu'à la Restauration, en s'y prenant mal, on était venu à bout de rendre les régicides populaires, eux que la masse de la nation proscrivait un instant auparavant. Il n'appartenait qu'à moi, disait-il, de pouvoir relever en France la mémoire de Louis XVI, de laver la nation des crimes dont l'avaient souillé quelques forcenés et des fatalités malheureuses. Les Bourbons, étant de la famille et venant du dehors, ne faisaient que venger leur cause particulière et accroître l'opprobre national. Moi, au contraire, parti du peuple, je soignais sa gloire en faisant, en mon nom, sortir des rangs ceux qui l'avaient souillé, et c'était bien mon intention. Mais j'y procédais avec sagesse. Les trois autels expiatoires à Saint-Denis n'avaient été qu'un prélude. Le temple de la gloire, sur les fondements de la Madeleine, devait y être consacré avec un bien plus grand éclat. C'était là, près de leurs tombeaux, sur leurs ossements même, que les monuments des hommes et les cérémonies de la religion eussent relevé, au nom du peuple français, la mémoire des victimes politiques de notre Révolution. C'était un secret qui n'a pas été connu de plus de 10 personnes. Mais encore avait-il fallu en laisser percer quelque chose à ceux qui dirigeaient l'ordonnance de cet édifice. Du reste, je ne l'aurais pas fait avant 10 ans, et encore eût-il fallu voir les précautions que j'y aurais employées, comme tout y eût été arrondi, les aspérités soigneusement écartées. Tous eussent pu y applaudir, aucun n'en eût souffert. Tout consiste tellement dans les circonstances et dans les formes, continuait-il, que Carnot n'aurait pas osé écrire un mémoire sur mon règne pour se vanter de la mort du roi, et il l'a fait sous les Bourbons. C'est que j'eusse marché avec l'opinion publique pour l'en punir, tandis que l'opinion publique marchait avec lui pour le rendre inattaquable. Dimanche 19, cascade de Briars. Mon fils et moi nous trouvions levés de bon matin. Notre tâche avait été finie dès la veille, et l'empereur, ne devant pas me faire demander de longtemps encore, nous avons profité de la fraîcheur du moment pour explorer notre voisinage. En remontant la vallée de Jamestown, il se trouve sur la droite de notre petit plateau de Briars, un ravin très profond, coupé de nombreuses crevasses à pic. Nous y sommes descendus, non sans beaucoup de peine, et sommes arrivés sur les bords d'un petit ruisseau limpide, présentant une grande abondance de cressons. Nous nous sommes amusés, et, comme en herborisant, à remonter le vallon et le ruisseau. Et après quelques sinuosités, nous avons bientôt atteint leur extrémité, ou leur origine, formée par un énorme mur de rochers à pic qui les barre transversalement, et du haut duquel tombait, en forme de gouttière avancée, une fort jolie cascade, composée des eaux supérieures environnantes, dont la chute dans le vallon dessinait le ruisseau que nous avions remonté et qui roule parfois en torrent jusqu'à la mer. Cette cascade, en ce moment, se dissipait au-dessus de nos têtes en fine pluie ou vapeur légère, mais dans les moments d'orage, elle doit verser à torrents et fournir des flots qui sillonnent avec fracas le ravin jusqu'à la mer. L'ensemble formait pour nous un spectacle sombre, solitaire, mélancolique, tout à fait attachant, dont nous ne nous sommes détachés qu'avec peine. Aujourd'hui, qui était dimanche, nous nous sommes trouvés tous réunis à dîner auprès de l'empereur. Il observa gaiement que nous formions le grand couvert. Après le dîner, le cercle de nos diversions n'étant pas grand, il demanda si nous irions ce soir à la comédie, à l'opéra ou à la tragédie. On s'est décidé pour la comédie et il a lu lui-même une partie de l'avare qui était continuée par d'autres. L'empereur était enrhumé, il avait un peu de fièvre. Il était rentré de bonne heure chez lui en me recommandant de le voir plus tard s'il ne dormait pas. J'ai accompagné les nôtres avec mon fils dans leur retour à la ville. En rentrant, l'empereur était couché. Lundi 20, première et seule excursion durant le séjour à Briars, bal de l'amiral. L'empereur, après son travail accoutumé avec l'un de ces messieurs, m'a fait appeler vers les 5 heures. Il se trouvait déjà seul. Ces messieurs et mon fils étaient partis de bonne heure pour la ville où l'amiral donnait un bal. Nous nous sommes promenés sur le grand chemin vers Jamestown, jusqu'au point d'où l'on découvre en face la rade et les vaisseaux, et sur la gauche, dans le fond de la vallée, une jolie petite habitation. L'empereur l'a considéré longtemps, parcourant avec sa lunette le jardin qui semblait très soigné et où l'on voyait courir de fort jolis petits enfants surveillés par leur mère. On nous avait dit que cette habitation appartenait au major Hodson, habitant de l'île, celui-là même qui m'avait prêté l'annual register. Elle était située au fond d'un ravin qui prenait naissance dans notre voisinage de Briars, au pied de la cascade dont j'ai parlé plus haut. Il a pris fantaisie à l'empereur d'y descendre. Il était pourtant près de 6 heures. La route est extrêmement rapide. Nous l'avons trouvée plus longue et plus difficile que nous ne l'avions pensé. Nous sommes arrivés tout haletants. Après avoir parcouru la petite demeure, qu'on voyait bien être appropriée par une main qui comptait l'habiter et non par celle d'un passager en terre étrangère, après avoir reçu les politesses du maître, fait quelques compliments à la maîtresse, l'empereur songea à quitter ce bon ménage. Mais la nuit étant venue, nous étions fatigués, nous avons accepté les chevaux qui nous ont fait regagner promptement notre cahute et notre dîner. Cette petite excursion et l'exercice du cheval, délaissé depuis si longtemps, ont semblé faire du bien à l'empereur. Il m'avait commandé d'aller au bal en dépit de ma répugnance. À 8 heures 30, il eut la bonté d'observer que la nuit était fort obscure, le chemin mauvais, qu'il était temps que je le quittasse, qu'il le voulait, et à gagner sa chambre, où je l'ai vu se déshabiller et se mettre au lit. Il m'a commandé de nouveau de partir. Je le faisais avec un vrai regret. Je le laissais seul, je brisais une solitude qui m'était devenue bien douce. Je me suis rendu à la ville à pied. L'amiral avait donné beaucoup d'éclat à son bal. Depuis longtemps, on ne cessait d'en parler. Il semblait vouloir persuader qu'il n'était que pour nous. Il nous y avait solennellement invités. Convenait-il d'accepter ou de ne pas s'y rendre? L'un et l'autre pouvaient également se soutenir. Les infortunes politiques n'imposent pas l'attitude du deuil domestique. Il n'y a nulle inconvenance. Il peut même être utile de se mouvoir au milieu de ces geôliers. On pouvait donc prendre indifféremment l'un ou l'autre parti. On se décida à y aller, mais alors quel rôle y tenir, celui de la fierté ou celui de l'adresse? Le premier parti avait des inconvénients. Dans notre position, toute prétention blessée devenait une injure. Le second n'en présentait aucun. Recevoir en homme de bonne compagnie à qui elles sont dues et qui y est accoutumé les moindres politesses, ne pas s'apercevoir de celles qu'on n'obtiendrait pas, c'était sans doute le mieux. Je suis arrivé très tard au bal et en suis sorti de bonne heure, très satisfait sous tous les rapports. Mardi 21, mercredi 22, ma conduite durant l'île d'Elbe. L'empereur, aux questions duquel j'avais répondu souvent sur la ligne de conduite d'un grand nombre de ses ministres, des membres de son conseil, des officiers de sa maison, durant son éloignement à l'île d'Elbe, m'a entrepris à mon tour à ce sujet, me disant « Mais vous-même, mon cher, qu'avez-vous fait sous le roi? Que vous est-il arrivé durant tout ce temps? Allons, un rapport là-dessus. Vous savez que c'est ma manière. C'est la seule pour bien classer ce que l'on dit et ce que l'on veut apprendre. Et puis ce sera un article de plus pour votre journal. Et ne voyez-vous pas, ajouta-t-il en riant, que vos biographes n'auront qu'à prendre, ils trouveront tout fait. Sire, le voici mot à mot. J'ai bien peu à dire. Je commandais au 31 mars la 10e Légion de Paris, celle du corps législatif. Nous perdîmes dans la journée un assez bon nombre d'hommes. Dans la nuit, j'appris la capitulation, j'écrivis à celui qui me suivait que je lui remettais ma légion, qu'à titre de membre du Conseil d'État, j'avais antérieurement eu l'ordre de me rendre ailleurs, mais que je n'avais pas voulu quitter ma légion au moment du danger, que ce qui venait d'arriver changeant les circonstances, j'allais courir à de nouveaux devoirs. au point du jour, je me jetai sur la route de Fontainebleau, au milieu des débris de marmots et de mortiers. J'étais à pied, mais je comptais acheter facilement un cheval. J'éprouvai bientôt que des soldats en retraite ne sont ni justes ni aimables. Mon uniforme de garde national, dans ce moment de désastre, était honni, ma personne maltraitée. Au bout d'une heure de marche, harassé de fatigue et de deux ou trois nuits blanches, n'apercevant autour de moi aucune figure de connaissance, sans apparence de pouvoir me procurer un cheval, je pris le parti de rentrer tristement dans la capitale. La garde nationale fut commandée pour orner l'entrée triomphale des ennemis. Elle était menacée de fournir un service d'honneur auprès des souverains qui nous avaient vaincus. Je résolus d'être absent de ma demeure. J'avais mis ma femme et mes enfants en sûreté hors de Paris une ou deux semaines auparavant, et j'allais demander l'hospitalité pour quelques jours à un ami. Je ne sortis plus que sous une mauvaise redingote, courant les rues, les cafés, les places publiques, les groupes. J'avais à cœur d'observer les hommes et les choses, et surtout de connaître le véritable esprit du peuple. Que de choses dans cette situation dont je fus le témoin. Je vis autour du logement de l'empereur de Russie des hommes distingués par leur rang, se disant français, s'évertuant en cent façons au milieu de la multitude pour l'amener à crier « Vive Alexandre, notre libérateur !» Je vis ici votre statue de la place Vendôme, fatiguée, épuisée tous les efforts de quelques misérables de la lie du peuple, soldés par des gens d'un grand nom. Enfin, je vis, à l'un des coins de cette même place Vendôme, devant l'hôtel du commandant de la place, un officier de votre maison, le soir même du premier jour, vouloir débaucher de jeunes conscrits pour un tout autre service que le vôtre, et recevoir d'eux des leçons qui eussent dû le faire rougir, s'il en eût été susceptible. Nul doute que ceux dont je parle ici ne prononçassent que je me trouvais en ce moment au milieu de la « canaille », et pourtant je dois à la vérité de dire que du moins ce n'était pas du tout de ce côté que partaient les turpitudes du jour. Leurs actes étaient loin d'y obtenir l'approbation, ils s'y trouvaient censurés, au contraire, par la droiture, la générosité, les sentiments nobles descendus sur la place publique. Quels reproches je pourrais faire entendre si je répétais tout ce qui fut dit à cet égard. Votre Majesté abdiqua. J'avais refusé ma signature à l'adhésion du Conseil d'État. Je crus alors, je ne sais trop pourquoi, devoir y supplier par une adhésion additionnelle. Le moniteur était plein chaque jour de pareilles pièces, mais la mienne ne mérita pas les honneurs de l'impression. Enfin, le roi arriva, c'était désormais notre souverain. Un jour fut indiqué par lui pour recevoir tous ceux qui avaient eu l'honneur d'être présentés à Louis XVI. J'allais aux Tuileries jouir de cette prérogative. Que ne me dirent-ils pas, ces murs, naguère encore si pleins de votre gloire et de votre puissance? Et pourtant je me présentais sincèrement et de bonne foi. Je n'y voyais pas assez loin pour penser que vous dussiez jamais y reparaître. Les députations au roi se multiplièrent à l'infini. Une réunion de toute l'ancienne marine eut son jour. Je répondis à celle-ci, qui me la transmettait, qu'aucun n'avait plus à cœur de se réunir à ses anciens camarades, qu'il ne serait pas parmi eux des vœux plus sincères que les miens, mais que les emplois que j'avais remplis me plaçaient dans une circonstance particulière et délicate qui m'imposait la prudence de ne pas me trouver où le zèle d'un président pourrait employer des expressions que je ne pouvais, ni ne devais, ni ne voulais approuver de ma pensée ni de ma présence. Plus tard, en dépit de mon chagrin et de mon dégoût, je voulus pourtant, à la sollicitation d'anciens amis, songer à faire quelque chose. On recomposait le Conseil d'État, beaucoup de membres du dernier me dirent qu'en dépit de mes conjectures récentes sur ce point, rien pourtant n'était plus facile que de s'y faire conserver, qu'ils y avaient réussi seulement en allant trouver le chancelier de France. Je ne me sentis pas le courage de dérober à sa grandeur un seul de ces moments, et je me contentais de lui écrire que j'avais été maître des requêtes du dernier Conseil d'État, que si ce n'était pas un motif d'exclusion pour faire partie du nouveau, je le priais de me placer sous les yeux du roi comme conseiller d'État. Je ne me ferais pas, disais-je, un titre à ses yeux de 11 ans d'émigration ni de la perte de mon patrimoine dans la cause du roi. Je n'avais fait dans ce temps que ce que j'avais alors cru mon devoir, et que toutes les fois que je m'en étais connu, je les avais remplis fidèlement jusqu'à leur extinction. Cette phrase me priva, comme on le pense, même de l'honneur d'une réponse. Cependant, la nouvelle situation de Paris, la vue des étrangers, les acclamations de tout genre me rendaient trop malheureux, et je suivis comme un trait de lumière la pensée d'aller à Londres, passer quelque temps auprès d'anciens amis, capables de me procurer toutes les consolations dont je pouvais être susceptible. Mais il me sembla que je retrouvais à Londres le même spectacle et les mêmes acclamations qui m'avaient mis en fuite de Paris. Et c'était vrai, tout y était fête, réjouissance, spectacle, au sujet de leur triomphe et de notre abaissement. Pendant que je m'y trouvais encore, on fit à Paris la nouvelle organisation de la marine. Un de mes anciens camarades, que j'avais perdu de vue depuis longtemps, le chevalier de Grimaldi, se trouvait membre du comité de l'organisation nouvelle. Il passa chez moi, dit à ma femme qu'il y était conduit par la surprise de n'avoir pas trouvé mes réclamations, que la loi me donnait le droit de rentrer dans le corps ou d'y avoir ma retraite avec pension, déjà fixée, qu'elle devait me décider là-dessus et s'en reposer sur mon amitié, bien que le terme touchât à sa fin. Je fus plus sensible à cette marque d'affection qu'à la faveur qu'elle cherchait à me procurer. Toutefois, j'écrivis au comité qu'ayant à cœur de pouvoir porter un habit qui m'était cher, je le priais de me faire accorder le titre de capitaine de vaisseau honoraire, que, quant à la pension, j'y renonçais, ne m'y croyant aucun droit. Je revins à Paris. La divergence des opinions, l'irritation des esprits m'y parurent extrêmes. Depuis longtemps, je m'étais fort retiré du monde. Je me confinais en ce moment uniquement dans mon ménage, au milieu de ma femme et de mes enfants. Jamais je n'avais été meilleur mari ni meilleur père, et peut-être aussi ne fus-je jamais si heureux. Un jour je lus, au journal des débats, dans l'extrait d'un ouvrage de M. Alphonse Beauchamp, le nom de quelques gentilshommes réunis le 31 mars sur la place Louis XV pour provoquer à la royauté. Le mien s'y trouvait. Il était en bonne compagnie, sans doute, mais enfin, je ne méritais rien de pareil, et j'avais beaucoup à perdre dans l'estime d'une foule de gens s'ils avaient pu le croire. J'écrivis donc pour prier de relever cette erreur qui m'attirait des félicitations qui ne m'étaient pas dues. Je m'étais cru cette démarche impossible, disais-je, quelque attrait d'ailleurs qu'elle eût pu me présenter. Commandant d'une légion de la garde nationale, j'avais contracté des engagements dont aucune affection sur la terre n'aurait pu me dégager, etc., etc. J'envoyais ma lettre au député Chabot-Latour, que j'aimais beaucoup, c'était l'un des propriétaires du journal. Il ne voulut pas se prêter à sa publication par pure bienveillance. Je l'adressai au rédacteur, il ne l'inséra pas par différence d'opinion. Cependant, la position des esprits annonçait une catastrophe inévitable et prochaine. Tout laissait présager aux Bourbons le sort des Stuarts. Ma femme et moi, nous lisions chaque soir cette époque fameuse décrite par Hume. Nous l'avions commencée à Charles Ier, et Votre Majesté parut avant que nous eussions pu atteindre Jacques II. Ici, l'empereur ne put s'empêcher de rire. Ce fut pour nous, continuai-je, un grand sujet de saisissement et d'anxiété que votre marche et votre arrivée. J'étais loin de prévoir l'honorable exil volontaire qu'elle devait me valoir par la suite, d'autant plus que j'étais alors peu connu de Votre Majesté et que les circonstances nées de l'événement même m'y ont seul conduit. Si j'avais occupé le moindre emploi sous le roi, si même l'on m'eût vu souvent aux Tuileries, ce qui eût été très simple et fort légitime, je n'eusse pas paru de longtemps devant Votre Majesté. Non que je ne me fusse rien reproché ou que mes vœux pour vous n'eussent été bien tendres, mais parce que je n'eusse pas voulu passer pour un meuble de cour ou sembler toujours prêt à encenser le pouvoir partout où il se présente. J'eusse attendu de l'emploi au lieu de me précipiter pour en obtenir. Mais ici je me trouvais tellement libre, tout en moi était en si parfaite harmonie qu'il me semblait que je faisais partie de ce grand événement. Je courus donc avec ardeur vers le premier regard de Votre Majesté, je me trouvai des droits à toute sa bienveillance et à toutes ses faveurs. Au retour de Waterloo, les mêmes sentiments et le même zèle m'ont porté, aussitôt et spontanément, auprès de votre personne. Je ne l'ai plus quitté. Et si je ne suivis alors que sa gloire publique, je suivrai aujourd'hui ses qualités personnelles. Et s'il est vrai qu'il m'en a coûté alors quelques sacrifices, je m'en trouve aujourd'hui payé au centuple par le bonheur de pouvoir vous le dire. Du reste, il serait difficile de peindre mon extrême dégoût de toute chose durant les 10 mois de votre absence. le mépris absolu des hommes et des vanités de ce monde, toutes les illusions détruites, chaque chose me semblait sans couleur, tout me paraissait fini ou mériter à peine qu'on y attachât le moindre prix. J'avais reçu la croix de Saint-Louis dans l'émigration, une ordonnance voulait qu'on la légitimât par un brevet nouveau. Je ne me sentis pas la force d'en faire la demande. Une autre ordonnée qu'on se fit confirmer les titres donnés par votre majesté, il me demeura indifférent de compromettre ceux que j'avais reçus sous l'Empire. Enfin, l'on m'écrivit du ministère de la Marine que mon brevet de capitaine de vaisseau venait d'y arriver, et il y est encore. L'absence de votre majesté fut pour moi un veuvage dont je n'avais dissimulé à personne ni les regrets ni la douleur. Aussi j'en recueillis le fruit à votre retour dans le témoignage de ceux qui vous entouraient et de qui j'étais à peine connu auparavant. Au premier lever de votre majesté, celui qui dirigeait par intérim les relations extérieures, sortant d'auprès de vous, me prit dans une embrasure de fenêtre pour me dire de graisser mes bottes, qu'on allait peut-être me faire faire un voyage. Il venait de me proposer, disait-il, à votre majesté, ajoutant qu'il m'avait présenté comme fou, mais fou d'elle. Je désirais savoir de quel lieu il s'agissait. C'était ce qu'il ne voulait ni ne pouvait me dire. Je n'en ai jamais su davantage. Monsieur Regnault de Saint-Jean-d'Angély me mit sur la liste des commissaires impériaux que votre majesté envoyait dans les départements. Je l'assurai que j'étais prêt à tout. J'observais seulement que, noble et émigré, il suffisait de ces deux mots prononcés par le premier venu pour m'annuler au besoin en tout temps et en tout lieu. Il trouva mon observation juste et n'y pensa plus. Un sénateur me demanda à votre majesté pour la préfecture de Metz, sa ville natale, sollicitant même de moi ce sacrifice pour 3 mois seulement, disait-il, afin de concilier les esprits et mettre les choses en bon train. Enfin, de Cresse et le duc de Bassano me proposèrent pour conseiller d'État, et le 3e jour de son arrivée, votre majesté en avait déjà signé le décret. Jeudi 23. L'empereur a été fort souffrant. Il est demeuré enfermé chez lui et n'a voulu recevoir personne. Il m'a fait demander sur les 9 heures du soir. Je l'ai trouvé très abattu, fort triste. Il m'a à peine dit quelques mots, et moi, je n'ai rien osé lui dire. Si sa souffrance était physique, j'avais une vive inquiétude. Si elle était morale, mon chagrin était grand de ne pouvoir employer vis-à-vis de lui toutes les ressources dont le cœur abonde pour celui qu'on aime véritablement. Il m'a renvoyé au bout d'une demi-heure. Vendredi 24, l'empereur a continué d'être fort souffrant et n'a voulu encore voir personne. Assez tard, il m'avait fait venir pour dîner avec lui. On a servi sur une très petite table à côté de son canapé sur lequel il est resté. Il a mangé assez bien. Il sentait le besoin d'une secousse qui arriverait bientôt, disait-il, tant il connaissait sa constitution. Après dîner, l'empereur a pris les mémoires du maréchal de Villars qui l'amusait. Il a lu tout haut plusieurs articles qui ont amené des ressouvenirs et plusieurs citations d'anecdotes. Samedi 25, tempérament de l'empereur, course, système de médecine. Napoléon était encore souffrant, il avait passé une mauvaise nuit. Il m'a fait venir près de son canapé, dont il ne sortait pas, mais il était évidemment mieux. Après dîner, il a voulu lire, il se trouvait sur son sofa au milieu d'un grand nombre de livres. La rapidité de son imagination, la fatigue du même sujet, ou le dégoût de relire sans cesse ce qu'il sait déjà, lui faisait prendre, jeter et reprendre encore tous ses livres les uns après les autres. Il finit par s'arrêter sur l'Iphigénie de Racine, faisant ressortir les perfections, indiquant et discutant le peu de défauts qu'on lui trouve, et il m'a renvoyé d'assez bonne heure. L'empereur, contre l'opinion commune, celle que j'avais entretenue moi-même, est loin d'avoir une forte constitution. Ses membres sont gros, mais sa fibre est très molle. Avec une poitrine fort large, il est toujours enrhumé. Son corps est soumis aux plus légères influences. L'odeur de peinture suffit pour le rendre malade. Certains mets, la plus petite humidité, agissent immédiatement sur lui. Son corps est bien loin d'être de fer ainsi qu'on l'a cru, c'est seulement son moral. On connaît ses prodigieuses fatigues au dehors, ses perpétuels travaux au dedans. Jamais aucun souverain n'a égalé ses fatigues corporelles. Ce qu'on cite de plus fort est la course de Valladolid à Burgos, à franc-étrier, 35 lieues d'Espagne en 5h30, plus de 7 lieues à l'heure. Napoléon était parti avec une nombreuse suite à cause du danger des guérillas. À chaque pas, il resta du monde en route. Napoléon arriva presque seul. On cite aussi la course de Vienne à Siebenring, 18 ou 20 lieues, où il se rendit à cheval, déjeuna et revint aussitôt après. On lui a vu faire souvent des chasses de 38 lieues, les moindres étaient de 15. Un jour, un officier russe, arrivant en courrier de Pétersbourg en 12 ou 13 jours, joignit Napoléon à Fontainebleau au départ de la chasse. Pour délassement, il eut la faveur d'être invité à suivre, il n'eut garde de refuser, mais il tomba dans la forêt, et ce ne fut pas sans peine qu'on le retrouva. J'ai vu l'empereur au Conseil d'État traiter les affaires 8 ou 9 heures de suite et lever la séance avec les idées aussi nettes, la tête aussi fraîche qu'au commencement. Je l'ai vu lire à Sainte-Hélène 10 ou 12 heures de suite des sujets abstraits sans en paraître nullement fatigué. Il a supporté sans ébranlement les plus fortes secousses qu'un homme puisse éprouver ici-bas. À son retour de Moscou ou de Leipzig, après l'exposé du désastre au Conseil d'État, il dit « On a répandu dans Paris que les cheveux m'avaient blanchi, mais vous voyez qu'il n'en est rien, » montrant son front de la main, « et j'espère que j'en saurai supporter bien d'autres. » Mais toutes ces prodigieuses épreuves ne se sont accomplies, pour ainsi dire, qu'en déception de son physique, qui ne se montre jamais moins susceptible que quand l'activité de l'esprit est plus grande. Napoléon mange très irrégulièrement et en général fort peu. Il répète souvent qu'on peut souffrir de trop manger, jamais d'avoir mangé trop peu. Il est homme à rester 24 heures sans manger, seulement pour se donner de l'appétit le lendemain. Il boit moins encore. Un seul verre de vin de Madère et de champagne suffit pour réveiller ses forces ou lui donner de la gaieté. Il dort fort peu, à des heures très irrégulières, se relevant au premier réveil pour lire ou pour travailler et se recouchant pour redormir encore. L'empereur ne croit pas à la médecine, il ne prend jamais aucun remède. Il s'est créé un traitement particulier. Son grand secret avait été, depuis longtemps, disait-il, de commettre un excès en sens opposé à son habitude présente. C'est ce qu'il appelle rappeler l'équilibre de sa nature. Il était depuis quelque temps au repos. Il faisait subitement une course de 60 000, une chasse de tout un jour. S'il se trouvait au contraire surpris au milieu de très grandes fatigues, il se condamnait à 24 heures de repos absolu. Cette secousse imprévue lui causait infailliblement une crise intérieure qui amenait aussitôt le résultat désiré. Cela, disait-il, ne lui avait jamais manqué. L'empereur a la lymphe trop épaisse, son sang circule difficilement. La nature l'a doué de deux avantages bien précieux, dit-il. L'un est de s'endormir dès qu'il a besoin de repos, en quelque heure et en quelque lieu que ce soit. L'autre, de ne pouvoir commettre d'excès nuisibles dans son boire ou dans son manger. « Si je dépasse le moindrement mon tirant d'eau, disait-il, mon estomac rendrait aussitôt le surplus. Il vomit très facilement, une simple toux d'irritation suffit pour lui faire rendre son dîner. » Dimanche 26 au mardi 28, vie de Briars, etc., ma première visite à Longwood, machine infernale, son historique. Le 26, l'empereur s'est habillé de très bonne heure, il était tout à fait bien. Il avait voulu sortir, le temps était charmant, et d'ailleurs sa chambre n'avait pas été faite depuis 3 jours. Nous avons été dans le jardin, où il a voulu déjeuner sous le berceau. Il se trouvait fort gai, et sa conversation a parcouru beaucoup d'objets et de personnes. L'empereur, tout à fait rétabli, reprit ses occupations ordinaires. Elles étaient sa seule ressource. Sa chambre, la lecture, la dictée, le jardin, devaient remplir toute sa journée. Quelquefois encore, l'allée inférieure, dont une nouvelle saison où l'état de la lunaison nous bannissait insensiblement. Les nombreuses visites que la curiosité attirait chez notre hôte pour y rencontrer l'empereur l'avaient gêné et l'en avait tout à fait éloigné. Nous demeurions claquemurés dans notre petite enceinte. Nous n'avions dû y rester que quelques jours, 6 semaines s'étaient écoulées et il n'était pas encore question de notre changement. Durant tout ce temps, l'empereur s'était trouvé aussi resserré que s'il fût demeuré à bord du vaisseau. Il ne s'était encore permis qu'une seule excursion chez le major Hudson et nous apprîmes plus tard qu'elle avait même causé une extrême inquiétude. elle était parvenue au milieu du bal de l'amiral aux oreilles des autorités et les avait mises tout en émoi. On travaillait toujours à Longwood, qui devait être notre nouvelle demeure. Les troupes que nous avions amenées d'Angleterre étaient campées aux environs. Le colonel donnait un bal, nous y étions invités. L'empereur voulut que j'y allasse et que j'examinasse l'endroit. Je m'y rendis avec Madame Bertrand dans une voiture attelée de 6 bœufs. C'est dans cet équipage mérovingien que nous escaladâmes la distance qui nous séparait de Longwood. C'était la première fois que je voyais de nouvelles parties de l'île. Toute la route ne me montra qu'une constante répétition des grandes convulsions de la nature. Toujours d'énormes rochers, hideux et nus, entièrement privés de végétation. Si, à chaque changement d'horizon, on apercevait au loin quelques verdures, quelques bouquets de bois, tout cela disparaissait en rapprochant comme les ombres des poètes. Ce n'était plus que quelques plantes marines, quelques arbrisseaux sauvages, ou bien encore quelques tristes arbres à gomme, ceux-ci sont toute la parure de Longwood. Je revins à cheval vers les 6 heures pour me trouver à temps auprès de l'empereur. Il me questionna beaucoup sur notre nouvelle demeure, il ne m'en trouva nullement enthousiasmé. Il me demandait, en résumé, s'il y avait à gagner ou à perdre. Je pus lui rendre toute ma pensée en 2 mots. « Sire, nous sommes ici, en cage, là, nous serons parqués. » Le 28, l'empereur quitta son habit militaire qu'il avait repris pour se rendre à bord du Bellérophon et prit un frac de fantaisie. Dans diverses conversations de ce jour, il a touché un grand nombre de conspirations dirigées contre lui. La machine infernale a eu son tour. Cette invention diabolique, qui causa tant de rumeurs et fit tant de victimes, fut exécutée par les royalistes qui en reçurent l'idée des Jacobins. Une centaine de Jacobins forcenés, disait l'empereur, les vrais exécuteurs de septembre, du 10 août, etc., etc., avaient résolu de se défaire du premier consul. Ils avaient imaginé, à cet effet, une espèce d'obus de 15 ou 16 livres qui, jeté dans la voiture, eût éclaté par son propre choc et anéanti tout ce qui l'eût entouré, se proposant, pour être plus sûr de leur coup, de semer une certaine partie de la route de chausse-trappe qui, arrêtant subitement les chevaux, devait amener l'immobilité de la voiture. L'ouvrier auquel on proposa l'exécution de ces chausse-trappes, prenant des soupçons sur ce qu'on lui demandait, aussi bien que sur la moralité de ce qu'il ordonnait, en prévint la police. On eut bientôt tracé ces gens-là, si bien qu'on les prit sur le fait, essayant hors de Paris, près du Jardin des Plantes, l'effet de cette machine qui fit une explosion terrible. Le premier consul, qui avait pour système de ne point divulguer les nombreuses conspirations dont il était l'objet, ne voulut pas qu'on donnât suite à celle-ci, on se contenta d'emprisonner les coupables. Bientôt on se lassa de les tenir au secret, et ils eurent une certaine liberté. Or, dans la même prison se trouvaient des royalistes, enfermés pour avoir voulu tuer le premier consul à l'aide de fusils à vent. Ces 2 bandes fraternisèrent, et ceux-ci transmirent à leurs amis, du dehors, l'idée de la machine infernale, comme de beaucoup préférable à tout autre moyen. Il est très remarquable que, pendant la soirée de la catastrophe, le premier consul montra une répugnance extrême pour sortir. On donnait un oratorio, Madame Bonaparte et quelques intimes du premier consul voulaient absolument l'y faire aller. Celui-ci était tout endormi sur un canapé, et il fallut qu'on l'en arrachât, que l'un lui apportât son épée, l'autre son chapeau. Dans la voiture même, il sommeillait de nouveau quand il ouvrit subitement les yeux, rêvant, dit-il, qu'il se noyait dans le Tagliamento. Pour comprendre ceci, il faut savoir que quelques années auparavant, étant général de l'armée d'Italie, il avait passé de nuit en voiture le Tagliamento contre l'opinion de tout ce qui l'entourait. Dans le feu de la jeunesse et ne connaissant aucun obstacle, il avait tenté ce passage, entouré d'une 100aine d'hommes armés de perches et de flambeaux. Et toutefois, la voiture se mit à la nage, il courut le plus grand danger et se crut réellement perdu. Or, en cet instant, il s'éveillait au milieu d'une conflagration. La voiture était soulevée. Il retrouvait en lui toutes les impressions du Tagliamento, lesquelles du reste n'eurent que la durée d'une seconde, car une effroyable détonation se fit aussitôt entendre. « Nous sommes minés !» furent les paroles qu'il adressa à l'âne et à Bessières qui se trouvaient avec lui. Ceux-ci voulaient arrêter à toute force, mais il leur dit de s'en bien donner la garde. Le premier consul arriva et parut à l'opéra comme si de rien n'était. Il fut sauvé par l'audace et la dextérité de son cocher César, à qui cette circonstance, non moins que son dévouement et sa fidélité, imprimèrent une sorte de célébrité. La machine n'atteignit qu'un ou deux hommes de la queue de l'escorte. Aussitôt après l'événement, on s'en prit aux Jacobins, qu'on avait jadis convaincus de la préméditation de cet attentat, et on en déporta un bon nombre. Ils n'étaient pourtant pas les vrais coupables. Un autre hasard, bien bizarre, fit découvrir ceci. 300 ou 400 cochers de fiacre donnèrent un repas de corps à 1 louis ou 12 francs par tête au cocher du premier consul, devenu, pour eux, le héros du jour et du métier. Dans la chaleur du repas, un des convives, buvant à son habileté, lui dit qu'il savait qui lui avait joué ce tour-là. On s'en saisit aussitôt, et il se trouva que le jour même, ou la veille de la fatale explosion, ce cocher s'était arrêté avec son fiacre devant une porte cochère pour laisser passer la petite charrette qui avait fait tout le mal. On courut à cet endroit où l'on louait en effet des voitures de toutes espèces. Les propriétaires ne la renièrent pas. Ils montrèrent le hangar où elle avait été raccommodée. Des traces de poudre y étaient encore. Ils croyaient, dirent-ils, l'avoir louée à des contrebandiers bretons. On retraça facilement tous ceux qui y avaient travaillé, celui qui avait vendu le cheval, etc., etc., et l'on acquit des indices que ce complot partait des royalistes chouans. On dépêcha quelques gens intelligents à leur quartier général dans le Morbihan. Ils ne s'en cachaient pas, ne se plaignant que de n'avoir pas réussi. Quelques coupables par là furent saisis et punis. On assure que le chef a depuis cherché dans les austérités de la religion l'expiation de son crime, qu'il s'est fait trappiste. Mercredi 29, jeudi 30, conspiration de Georges, Pichegru, etc., affaire du duc d'Enghien, esclave Toby, réflexion caractéristique de Napoléon. Je trouve ici, dans mon manuscrit, des détails précieux sur la conspiration de Georges, de Pichegru, de Moreau et sur le procès du duc d'Enghien. Mais comme il en est question à différentes reprises dans mon journal, je renvoie plus loin ce qui se trouve ici afin d'en présenter ailleurs l'ensemble complet. Le petit jardin de M. Balcombe, où nous nous promenions souvent, se trouvait cultivé par un vieux nègre. La première fois que nous le rencontrâmes, l'empereur, suivant sa coutume, me le fit questionner, et son récit nous intéressa fort. C'était un Indien malais qui avait été frauduleusement enlevé de chez lui il y avait nombre d'années par un équipage anglais, transporté à bord et vendu à Sainte-Hélène, où il demeurait depuis en esclavage. Sa narration portait tout le caractère de la sincérité. Sa figure était franche et bonne, ses yeux spirituels encore vifs, tout son maintien nullement avili, mais tout à fait attachant. Nous fûmes indignés au récit d'un tel forfait, et à peu de jours de là, l'empereur pensa à l'acheter pour le faire reconduire dans son pays. Il en parla à l'amiral, dont le premier mot, en défense des siens, fut de prétendre que le vieux Toby, c'était le nom du malheureux esclave, ne devait être qu'un imposteur et que la chose était impossible. Toutefois, il fit une enquête à ce sujet, et la chose ne se trouva que trop vraie. Alors il partagea notre indignation et promit d'en faire son affaire. Nous avions quitté Briars, nous avons été transportés à Longwood, et le pauvre Toby, partageant le sort commun de toutes choses ici-bas, a été bientôt oublié. Je ne sais pas ce que tout le reste est devenu. Quoi qu'il en soit, lorsque nous venions dans le jardin, l'empereur s'arrêtait la plupart du temps près de Toby et me le faisait questionner sur son pays, sa jeunesse, sa famille, sa situation actuelle. On eût dit qu'il cherchait à étudier ses sensations. L'empereur terminait toujours la conversation en me chargeant de lui donner un Napoléon. Toby s'était fort attaché à nous. Notre venue semblait être sa joie. Interrompant aussitôt son travail et appuyé sur sa bêche, il contemplait d'un air satisfait nos deux figures, n'entendant pas un mot de notre langue entre nous, mais souriant d'avance aux premières paroles que je lui traduirai. Il appelait l'empereur que « le bon monsieur »,« the good gentleman », c'était le seul nom qu'il lui donna, il n'en savait pas davantage. Je me suis arrêté sur ces détails parce que les rencontres de Toby étaient suivies de la part de l'empereur de réflexions toujours neuves, piquantes et surtout caractéristiques. On connaît la mobilité de son esprit, aussi la chose était-elle traitée chaque fois sous une face nouvelle. je me suis contenté de consigner ici les suivantes. « Ce pauvre Toby que voilà, disait-il une fois, est un homme volé à sa famille, à son sol, à lui-même, et vendu. Peut-il être de plus grands tourments pour lui, de plus grands crimes dans d'autres ? Si ce crime est l'acte du capitaine anglais tout seul, c'est à coup sûr un des hommes les plus méchants. Mais s'il a été commis par la masse de l'équipage, ce forfait peut avoir été accompli après tout par des hommes peut-être pas si méchants qu'on le croirait, car la perversité est toujours individuelle, presque jamais collective. Les frères de Joseph ne peuvent se résoudre à le tuer. Judas, froidement, hypocritement, avec un lâche calcul, livre son maître au supplice. Un philosophe a prétendu que les hommes naissaient méchants. Ce serait une grande affaire et fort oiseuse que d'aller rechercher s'il a dit vrai. Ce qu'il y a de certain, c'est que la masse de la société n'est point méchante. Car si la grande majorité voulait être criminelle et méconnaître les lois, qui est-ce qui aurait la force de l'arrêter ou de la contraindre? Et c'est là précisément le triomphe de la civilisation. Parce que cet heureux résultat sort de son sein, naît de sa propre nature. La plupart des sentiments sont des traditions. Nous les éprouvons parce qu'ils nous ont précédés. Ainsi, la raison humaine, son développement, celui de nos facultés, voilà toute la clé sociale, tout le secret du législateur. Il n'y a que ceux qui veulent tromper les peuples et gouverner à leur profit, qui peuvent vouloir les retenir dans l'ignorance. Car plus ils sont éclairés, plus il y aura de gens convaincus de la nécessité des lois, du besoin de les défendre. Et plus la société sera assise, heureuse, prospère. Et s'il peut arriver jamais que les lumières soient nuisibles dans la multitude, ce ne sera que quand le gouvernement, en hostilité avec les intérêts du peuple, l'acculera dans une position forcée ou réduira la dernière classe à mourir de misère, car alors il se trouvera plus d'esprit pour se défendre ou devenir criminel. Mon seul code, par sa simplicité, a fait plus de bien en France que la masse de toutes les lois qui m'ont précédé. Mes écoles, mon enseignement mutuel, préparent des générations inconnues. Aussi, sous mon règne, les crimes allèrent-ils en décroissant avec rapidité, tandis que chez nos voisins, en Angleterre, ils allaient au contraire croissant d'une manière effrayante. Et c'en est assez pour pouvoir prononcer hardiment sur les deux administrations respectives. Et voyez comme aux États-Unis, sans effort aucun, tout y prospère, combien on y est heureux et tranquille. C'est qu'en réalité, c'est la volonté, ce sont les intérêts publics qui y gouvernent. Mettez le même gouvernement en guerre avec la volonté, les intérêts de tous, et vous verrez aussitôt quel tapage, combien de tiraillements, de troubles, de confusions, et surtout quel accroissement de crimes. Arrivé au pouvoir, on eût voulu que j'eusse été un Washington. Les mots ne coûtent rien, et bien sûrement, ceux qui l'ont dit avec autant de facilité le faisaient sans connaissance des temps, des lieux, des hommes et des choses. Si j'eusse été en Amérique, volontiers j'eusse été à Washington, et j'eusse eu peu de mérite, car je ne vois pas comment il eût été raisonnablement possible de faire autrement. Mais si lui se fût trouvé en France, sous la dissolution du dedans et sous l'invasion du dehors, je lui eusse défié d'être lui-même. Ou s'il eût voulu l'être, il n'eût été qu'un niais et n'eût fait que continuer de grands malheurs. Pour moi, je ne pouvais être qu'un Washington couronné. Ce n'était que dans un congrès de rois, au milieu des rois convaincus ou maîtrisés, que je pouvais le devenir. Alors là seulement, je pouvais montrer avec fruit sa modération, son désintéressement, sa sagesse. Je n'y pouvais raisonnablement parvenir qu'au travers de la dictature universelle. J'y ai prétendu. M'en ferait-on un crime? Penserait-on qu'il fût au-dessous des forces humaines de s'en démettre? S'il a, gorgé de crimes, a bien osé abdiquer, poursuivi par l'exécration publique, quel motif eût pu m'arrêter, moi qui n'aurais eu que des bénédictions à recueillir? Il me fallait vaincre à Moscou. Combien, avec le temps, regretteront mes désastres et ma chute. Mais demander de moi avant le temps ce qui n'était pas de saison était d'une bêtise vulgaire. Moi, l'annoncer, le promettre, eût été pris pour du verbiage, du charlatanisme. Ce n'était point mon genre. Je le répète, il me fallait vaincre à Moscou. Une autre fois, arrêté devant Toby, il disait « Ce que c'est pourtant que cette pauvre machine humaine !» Pas une enveloppe qui se ressemble, pas un intérieur qui ne diffère. Et c'est pour se refuser à cette vérité qu'on commet tant de fautes. faite de Toby un Brutus, il se serait donné la mort. Un Ésope, il serait peut-être aujourd'hui le conseiller du gouverneur. Un chrétien ardent et zélé, il porterait ses chaînes en vue de Dieu et les bénirait. Pour le pauvre Toby, il ne regarde pas de si près, il se courbe et travaille innocemment. Et après l'avoir considéré quelques instants en silence, il dit en s'éloignant, « Il est sûr qu'il y a loin du pauvre Toby un roi Richard. Et toutefois, continuait-il en marchant, le forfait n'en est pas moins atroce, car cet homme, après tout, avait sa famille, ses jouissances, sa propre vie. Et il en a commis un horrible forfait en venant le faire mourir ici sous le poids de l'esclavage. » Et s'arrêtant tout à coup, il me dit, « Mais je lis dans vos yeux, vous pensez qu'il n'est pas le seul exemple de la sorte à Sainte-Hélène. » Et soit qu'il fût heurté de se voir en parallèle avec Toby, soit qu'il crût que mon courage eût besoin d'être relevé, soit enfin toute autre chose, il poursuivit avec feu et majesté. « Mon cher, il ne saurait y avoir ici le moindre rapport. Si l'attentat est plus relevé, les victimes aussi offrent bien d'autres ressources. » On ne nous a point soumis à des souffrances corporelles, et l'eût-on tenté, nous avons une âme à tromper nos tyrans. Notre situation peut même avoir des attraits, l'univers nous contemple, nous demeurons les martyrs d'une cause immortelle. Des millions d'hommes nous pleurent, la patrie soupire, et la gloire est en deuil. Nous luttons ici contre l'oppression des dieux, et les vœux des nations sont pour nous. » Et après une pause de quelques secondes, il reprit, « Mes véritables souffrances ne sont point ici. Si je ne considérais que moi, peut-être aurais-je à me réjouir. Les malheurs ont aussi leur héroïsme et leur gloire. L'adversité manquait à ma carrière. Si je fusse mort sur le trône, dans les nuages de ma toute-puissance, je serais demeuré un problème pour bien des gens. Aujourd'hui, grâce au malheur, on pourra me juger à nu. »